إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله عز وجل en cette soirée. Du mercredi 25 Safar 1435 de l'Égypte correspondant au 1er janvier 2014, bi'iznillahi subhanahu wa ta'ala. Avec le 25e cours du livre Le dogme du monothéisme de Cheikh Fawzan Hafidahullah subhanahu wa ta'ala. Donc le cours d'aujourd'hui inshallah ta'ala, le titre c'est, une seconde, prétendre la connaissance de l'invisible. Non, avant cela, bon, cela, je vais vous lire, inshallah ta'ala, les titres, qu'est-ce qu'il y a. Non, Fawzi, j'ai posé la question pour Baylux. Je voulais dire, est-ce que le salon était ouvert? Donc maintenant, nous sommes au quatrième chapitre, qui s'appelle « Paroles et actes qui vont à l'encontre de l'unicité ou qui la diminuent. » Paroles ou actes qui vont à l'encontre de l'unicité ou qui la diminue. Une seconde, inshallah ta'ala. Une seconde, je vais écrire cela. Une seconde. Une seconde. C'est écrit, c'est-à-dire je vais chercher seulement où ça se trouve. Je cherche pourquoi ça ne s'est pas affiché. Je disais, c'est le quatrième chapitre qui s'appelle « Paroles et actes qui vont à l'encontre de l'unicité ou la diminuent ». Dans ce quatrième chapitre, il y a 11 sous-chapitres, 11. Le premier inshallah qu'on va voir aujourd'hui, c'est « Prendre la connaissance, prétendre la connaissance de l'invisible par le fait de... » Deuxième sous-chapitre, « La sorcellerie, la divination » et la voyance. Troisième sous-chapitre, faire des offrandes, accomplir des vœux, offrir des cadeaux au sanctuaire et au tombeau. Quatrième, la vénération des statues et des moments commémoratifs. Cinquième, se moquer de la religion et mépriser ses injonctions sacrées. Sixième sous-chapitre, juger selon une loi autre que celle d'Allah Azza wa Jal. Septième, s'approprier le droit de légiférer et de déclarer telle chose licite ou illicite. Huitième, l'adhésion aux doctrines athées et aux principes impies. Neuvième, le matérialisme. Dixième sous-chapitre, les amulettes et les incantations. Ruqya. Onzième sous-chapitre, jurer par autre qu'Allah et solliciter, implorer le secours d'une créature au lieu d'Allah Azza wa Jal. Donc il y a 11 premiers chapitres, sous-chapitres. Aujourd'hui, on va voir seulement le premier. On va voir seulement le premier sous-chapitre. Qui est quoi? Prétendre la connaissance de l'invisible par la chiromancie, c'est-à-dire en regardant la paume de la main, la lecture de l'avenir dans une tasse, j'ajoute aussi la lecture de l'avenir dans les cartes, dans un jeu de cartes, l'astrologie, etc. l'islam, prétendre la connaissance de l'invisible par la pomancie, c'est-à-dire en regardant la paume de la main, et aussi la lecture de l'avenir dans une tasse, les cartes, l'astrologie, etc. Maintenant, la définition de l'invisible, al-ghayb. Qu'est-ce que ça veut dire al-ghayb? L'invisible, qu'est-ce que ça veut dire l'invisible? La définition de l'invisible, al-ghayb. L'invisible est tout ce qui est imperceptible à l'être humain, comme événement du futur ou du passé. Comme événement du futur ou du passé. Il s'agit également de ce que les gens ne voient pas. Il s'agit également de ce que les gens ne voient pas. Allah Azza wa Jal s'est approprié l'exclusivité de cette connaissance. Allah Azza wa Jal s'est approprié l'exclusivité de cette connaissance. Je répète, l'invisible, c'est tout ce qui est imperceptible à l'être humain, comme événement du futur ou du passé. Il s'agit également de ce que les gens ne voient. Allah Azza wa Jal s'est approprié l'exclusivité de cette connaissance. Il a dit dans le Coran, regardez le verset qui va venir. قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. Dis à Muhammad, dis-leur, nul de ceux qui sont dans les cieux et sur la terre ne connaît l'invisible, à part Allah. Et ils ne savent pas quand ils seront ressuscités. Dis, nul de ceux qui sont dans les cieux et sur la terre ne connaît l'invisible, à part Allah Azza wa Jal. Quelqu'un dit que quelqu'un dans les cieux ou sur la terre connaît l'invisible, ça veut dire qu'il a démenti le verset. Il a démenti le Coran et il a dit à Audu Billah, Allah Azza wa Jal ment, pas la vérité. Donc c'est très grave. C'est pourquoi c'est très grave le fait d'aller chez un devin, d'aller chez un sorcier, chez un voyant, une voyante. C'est très grave. Car tu contredis le verset. Le verset dit, personne ne connaît l'invisible, que ce soit dans les cieux ou sur la terre. Et toi tu as dit, non, cette femme connaît l'invisible. Elle va me dire avec qui je vais me marier. Elle va me dire si je vais m'en bac ou pas. Elle va me dire qui m'a volé mes bijoux. Elle va me dire qui m'a fait le sihr. Elle va me dire qui m'a. Donc c'est très grave. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui est allé chez quelqu'un comme ça, il a dit Farad kafara bima unzila ala Muhammad. Il a mécru en ce qui est descendu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, qu'est-ce qu'il est descendu sur lui? Il est descendu sur lui le Coran et ce verset dans le Coran, spécialement ce verset. Cheikh Fawzan hafidhahullah dit, donc Allah Azza wa Jal est le seul à connaître l'invisible. Il peut cependant en dévoiler ce qu'il veut à ses messagers pour une sagesse et un intérêt connu de lui. Je répète, seul Allah Azza wa Jal connaît l'invisible. Cependant, il peut dévoiler de cet invisible à ses messagers. Il leur dévoile un peu de l'invisible pour une sagesse et un intérêt connu de lui. Comme a dit Allah Ta'ala dans le Coran, il a dit Alimu al-ghaybi fala yudhiru ala ghaybi ahada. 72-26. C'est le mystère, l'invisible. Il ne dévoile son mystère à personne. Mystère ici veut dire invisible. Il ne dévoile son invisible à personne. Illa man irtada min rasul. 72-27. Sauf à celui qu'il agrée comme messager. Donc Allah Ta'ala nous montre et ne dévoile l'invisible à personne. Celui le connaît, le garde pour lui. Excepté qui? Excepté, c'est un messager qu'il agrée. Il leur montre un peu de l'avenir. Comme il a montré au prophète sallallahu alayhi wa sallam beaucoup de l'avenir. Il a dit que la fin du mois pas lieu jusqu'à ce qu'il se passe ceci, cela, jusqu'à ce. Et plusieurs fois il a vu, il a vu des choses de l'avenir comme ça devant lui. De l'invisible, il a vu le paradis, il a vu. Donc ça c'est spécialement, il y a une exception. Il a dit sauf à celui qu'il agrée comme messager. En d'autres termes, dit Cheikh Fawzan Hafidhahullah, ma connaissance d'une partie de l'invisible
que celui qu'Allah Ta'ala fait porter son message. Il lui dévoile alors ce qu'il veut de l'invisible. Cela, car le messager est appelé à prouver l'authenticité de sa prophétie en accomplissant des miracles. Donc, le fait de donner des informations relatives à l'invisible qu'Allah Ta'ala lui dévoile. Donc ça, c'est en réponse à une question. Si quelqu'un dit, pourquoi spécialement des messagers, Allah Ta'ala leur dévoile un peu de l'invisible. Pourquoi? Pourquoi pas aux autres? On va dire la réponse, c'est quoi? Parce que les messagers, quand ils vont aux gens, ils vont leur dire, nous sommes des prophètes. Les gens, beaucoup de gens, demandent une preuve. Tu dis, quelle est la preuve de l'authenticité de ton message, que tu es un messager? Allez, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a par exemple derrière cet arbre là-bas? Allez, dis-moi, qu'est-ce qui va se passer par exemple dans une demi-heure et comme ça. Il te pose à, commence à te poser des choses sur l'invisible. Sur l'invisible. Et maintenant, s'il va dire, je ne connais pas, alors les gens vont dire non, alors on ne croit pas. Bien sûr, il va, yani, ça ne veut pas dire qu'Allah Ta'ala va tout lui montrer, non. Le professeur Sam m'a dit, la alamul ghaib, dans le Coran, il a dit, la alamul ghaib, je ne connais pas l'invisible. Pourquoi? Quand il y a des défis entre des kuffars et lui, et veulent démentir son messager, Allah Ta'ala lui montre un peu de l'invisible pour réfuter, yani, leur choubouhette. Non. C'est juste pour, yani, leur prophète. Sinon, il ne connaît pas l'invisible, sallallahu alayhi wa sallam. Cela concerne le messager angélique ou humain. Cela concerne le messager, qu'il soit comme Jibril alayhi salam par exemple, ou humain, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et personne d'autre. Personne d'autre. Le verset s'étant limité à eux. Personne d'autre. Que tu sois la personne la plus accrochée à la sunna du prophète alayhi salam. La personne qui a le plus de science dans la sharia, la personne qui passe la nuit à prier et les journées à jeûner, jamais tu n'auras droit à ce qu'on te dévoile l'invisible. Certes, Allah Ta'ala peut t'arriver, par exemple, en te gratifiant dans ce qu'on appelle un songe véridique. Allah Ta'ala peut te montrer dans un songe véridique, par exemple, la personne avec laquelle tu vas te marier, par exemple. Naam, ça, c'est yani, restreint seulement dans les songes. Mais quand le prophète sallam, comme ça, dans l'éveil. Cheikh Hafidallah dit, par conséquent, quiconque, en dehors de ce qu'Azzawajal a fait exception, parmi ses messagers, quiconque prétend la connaissance du ghaib, de l'invisible, par quelque moyen que ce soit, par une lecture dans la pomme ou dans une tasse, j'ajoute, ou par un jeu de cartes, ou par la divination, la pratique de la sorcellerie, l'astrologie et autres, est un menteur et en même temps un mécréant. Deux choses à la fois. Celui qui dit je connais l'invisible, on va l'accuser de deux choses. Premièrement, tu es un menteur. Deuxièmement, tu es devenu mécréant. Naam. C'est le cas de certains charlatans et imposteurs qui donnent des informations à propos de l'endroit de choses perdues ou cachées ou les causes de certaines maladies en disant telle personne t'a fait telle et telle chose. Telle personne t'a fait du sihr. Telle personne yani, t'as fait un talisman et a écrit dessus des amulettes et comme ça. Naam, il te dit le sihr se trouve dans tel endroit et c'est ta voisine qui t'a fait le sihr, c'est ta tante, c'est ta belle-mère et comme ça. Ainsi, et elle va te dire ainsi tu es devenu malade. C'est pour cela que tu t'es pas marié. C'est pour cela que tu ne trouves pas de travail. Et c'est pour cela qu'il n'y a pas de prétendants qui viennent. Et comme ça, ces informations leur sont en réalité parvenues par l'intermédiaire des djinns et des démons. montre aux gens qu'ils savent des choses grâce aux pratiques citées ci-dessus, ruse et tromperie. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, qu'Allah Ta'ala lui accorde la miséricorde, rahimahullah, a dit: le devin, vous savez ce qu'il devint, celui qui prétend à me connaître l'avenir, il a dit à un compagnon parmi les démons, les shayatin, qui l'informe de nombreuses choses de lui qu'il parvient à dérober en tendant l'oreille. De plus, il mélange le mensonge à la vérité. Jusqu'à ce qu'il dise, yani Cheikh l'Islam, il a dit, il en est parmi eux, les devins, à qui le diable apporte des fruits, des gâteaux et d'autres choses qui ne se trouvent pas dans cet endroit. D'autres parmi eux, des shayatin, etc., des sorciers, volent au moyen d'un djinn. Nam, vole au moyen d'un djinn pour se rendre à la Mecque, à Jérusalem ou ailleurs. À la Mecque, à Jérusalem ou ailleurs. Quand Cheikh Islam rahimallah a dit, d'autres parmi eux volent, ça veut dire du verbe voler en l'air, comme l'avion. C'est pas voler, yani dérober. Vole au moyen d'un djinn pour se rendre à la Mecque, à Jérusalem ou ailleurs. Ça me rappelle une histoire qu'a cité Cheikh Islam rahimahullah dans son livre Al-Fatawa. Naam, dans Majmou' Al-Fatawa rahimahullah. Qu'est-ce qu'il a cité? Écrivez numéro 1 si vous m'entendez. Alhamdulillah. En parlant de certains charlatans qui volent en l'air. Il a dit, une fois, il y avait comme ça dans une ville, là, il y avait quelqu'un qui était connu, Zama, par la piété. Comme Zama, quelqu'un des élus d'Allah subhanahu wa ta'ala, Awliya. Non, quelqu'un yani, très connu. Même. Que faisait cette personne? Cette personne, à chaque fois qu'arrivait le moment du Hajj, elle allait dans un endroit comme ça où il y avait une petite montagne. Elle montait dessus, arrivait au sommet, non, et les gens en bas, tous yani, la regardaient. Et c'est chaque année que ça se passait comme ça, donc tout le monde savait. Et chaque année, il y a des gens qui venaient voir ça, parce qu'il y en a qui ne croient pas. Il dit, tu crois pas ce que je te raconte, viens avec moi. Et ils allaient voir. Alors, cet homme-là, le pieux, était sur le sommet de la montagne. Ensuite, c'était le moment du Hajj. Ensuite, qu'est-ce qu'on voyait? On voyait un chameau avec des ailes, avec deux ailes, qui, subhanallah al-azim, volait. On le voyait arriver de loin, il arrive. Ensuite, il se pose sur le sommet de la montagne. Ensuite, cet homme pieux, Zama pieux, montait dessus et allait au Hajj. Un mois après, où là, il revenait avec le même chameau, le posait au même endroit. Et il allait l'accueillir, etc. Et tous les gens qui ne croyaient pas, bien sûr, parce que ça s'est répandu cette histoire à travers le monde, et celui qui ne croyait pas, on lui dit, viens voir de tes propres yeux. Tu ne vas pas le croire, viens voir de tes propres yeux, tu vas voir le chameau va venir quand c'est le moment du Hajj. Taïb. Un jour, cet homme est mort, celui qui montait sur le chameau. Les gens ont dit à son fils, il avait un fils de 20 ans ou quelque chose comme ça, c'est bientôt le moment du Hajj, sur le même sommet de la montagne, peut-être que Allah Ta'ala t'a donné ce qu'il a donné à ton père. Comme vertu, comme piété, etc., que le chameau viendrait te prendre. Possible, tu es pas comme mon père. On lui a dit, ça, on sait jamais. Quand le moment du Hajj est venu, est allé, son fils a escaladé la montagne, il est monté sur le sommet, il attendait. Tous les gens en bas, d'attendre qu'est-ce qui va se passer. Et voilà qu'il voit le chameau arriver. Chameau avec deux ailes, en train de voler. Il vole
Ensuite, il arrive, il se pose sur le sommet de la montagne. Le fils se met sur le chameau et il vole. Il vole vers le Hajj. Vers le Hajj. Non. Juste, d'habitude, son père, quand il allait, il restait un mois, peut-être deux mois, il revenait. Mais celui-là, alaykoum salam wa barakatou, mais son fils, juste quelques jours après être parti à bout de chameau, voilà qu'il est revenu à pied. Il est revenu à pied vers la ville, yani, où, yani, la, disons sa maison, où il habitait. Les gens, yani, ne revenaient pas de leur étonnement. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait? Tu es revenu à pied? Comment? Il leur a dit, une seconde, je vais vous raconter ce qui s'est passé. Vous allez être étonnés. Il leur a dit, quand je suis monté sur le dos du chameau, et il m'a pris en vol. Il a dit, on a marché je ne sais pas combien de kilomètres. Ensuite, le chameau, il a dit, a atterri. Il est descendu, il a dit, dans un endroit en plein désert. Il y avait comme ça, comme disons, un caillou, un petit rocher, ou là, qui était la trace qu'il fallait descendre à cette. Ensuite, il a dit, son fils dit, il a dit, quand le chameau a atterri, soudain, il a posé ses pieds sur terre, il m'a dit, écoute, fiston. Le chameau a dit, écoute, fiston, en fait, je ne suis qu'un démon, qu'un shaitan, qui avait l'habitude de travailler avec ton père, car j'avais fait un pacte avec lui, que, il y a chaque fois, il a dit que, chaque année, je viendrai le prendre pour le Hajj. Et je ferai de lui un grand, une grande personne réputée dans le monde de par sa piété. Que, d'ailleurs, tous les gens étaient étonnés comment un chameau avec des ailes, etc., le prenait pour le Hajj. Pour que les autres allaient à pied. Il leur a dit, mais ton père, j'avais fait un pacte avec lui que je lui faisais ça chaque année. À condition qu'il a dit, à chaque fois que je le prenais sur mon dos, quand on arrivait à cet endroit-là, ce petit rocher-là où tu m'as vu maintenant descendre, ton père descendait de moi, de mon dos, et me faisait une prosternation. Ici, il me faisait une prosternation. C'est ça qui a fait que je travaillais avec lui, je lui faisais tout ce qu'il voulait. Donc toi, mon fils, tu choisis entre deux choses, cette prosternation. Et on continue le voyage. Et tu auras les mêmes mérites qu'avait ton père. Tu seras quelqu'un de très connu dans le monde, etc. Ou bien, tu ne veux pas, alors il ne te reste qu'à revenir à pied. Il a dit, par Allah, jamais je n'associerai quelqu'un à Allah Azzawajal. Jamais je ne prosternerai qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Malish, je reviens à pied. Et il est revenu à pied vers la ville où il était. Il a raconté aux gens, il leur a dit, voilà ce qui s'est passé. Donc, en fait, son père n'était quoi? Qu'un charlatan, un imposteur. Donc, tout cela pour dire quoi? Ça, c'est Ibn Taymiyyah qui l'a cité dans Mujmu' al-Fatawa. Pour dire quoi? C'est pour ça que les gens, yani des selfs, les savants, Shafi'i rahimahullah, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, si vous voyez, c'est Shafi'i qui a dit ça, ensuite c'est devenu... Que disent les salafis? Ils disent, si vous voyez quelqu'un voler dans l'air ou marcher sur l'eau, ne dites jamais, yani, est une preuve de piété, jusqu'à ce que vous voyez comment est avec le Coran et la Sunna, comment qu'il y a avec les injonctions et les ordres qu'il y a dans le Coran et les ordres qu'il y a dans la Sunna. Vous comprenez? Donc, cette personne qui volait, avec le chameau, pour les gens de la masse, c'est quelqu'un de Masha'Allah. Mais si toi, tu vois quelqu'un voler, faut pas dire c'est quelqu'un de Masha'Allah. J'attends qu'il descende du chameau pour que je dise lui, je pose des questions dans l'aqida, et je vois aussi, yani, sa position vis-à-vis de la sunna. Comment qu'il est par la sunna. Maintenant, si je trouve que c'est quelqu'un qui ne prie pas, ou alors, salat al-subh, il l'a pris après salat al-dhuhr. Et salat al-dhuhr, il a pris la nuit, et il fume la... S'il y a de la drogue,
Et il est tout le temps avec les femmes. Il dit des gros mots. Vous avez compris? Et il n'a pas de barbe. Et ceci, et cela. Khlas, alhamdoulilah, je suis sur la clairvoyance. Je sais que ce n'est qu'un charlatan. Pour ça, quand vous allez au charlatan, par exemple, ou là, celui qui dit je connais l'invisible. La première des choses, dans beaucoup de cas, vous le trouvez avec une bague en or dans la main. La bague en or pour l'or, enfin pour l'homme, c'est typique. Donc comment se fait-il que celui qui avait une bague dans la main en or, il fait un grand péché et Allah Ta'ala lui a donné la bien, ce bien l'invisible. C'est pas possible. Allah Ta'ala, s'il donnait ça, s'il le donne, il donne à quelqu'un de pieux, pas quelqu'un qui fait des grands péchés. Non, ni barbe, ni peut-être un cigare dans la bouche, peut-être une chaîne d'or dans son cou, et il dit des gros mots, il dit ceci, celui-là, il va me parler de l'invisible. Et la même chose, c'est les voyantes et les sorcières. Aucune d'elles ne fait la prière. Elle l'a fait, c'est juste pour feindre les gens. Pour qu'ils se disent, ah, mashallah, elle fait la prière. Donc, alhamdoulilah, elle a peur d'Allah, celle-là. Donc, ce qu'elle fait, c'est... Non, les gens, donc, ils disent que c'est haram, ils se trompent. Oh, mashallah, celle-là, elle prie alors. Ah, non, il faut pas croire les barbus qui disent que ça, c'est haram. Non, non, ils exagèrent. C'est une mashallah, je la connais. Elle prie alors. Oh, Allah, ibarak. Non. Al-Muhim. Le cheikh dit, cheikh Fawzan, rahimahullah, dit, il se peut qu'ils tirent leurs informations sur l'invisible via quoi? Via l'astrologie. Le moyen consiste à se référer à la position des corps célestes pour prédire des événements terrestres, tels que les moments de soufflement du vent, l'arrivée de la pluie, la fluctuation des prix et autres choses qu'ils prétendent percevoir à partir du mouvement des astres dans leur déplacement, ainsi que leur rencontre et séparation. À titre d'exemple, ils disent « Celui qui se marie, voyage ou naît selon tel ou tel astre, aura telle bonne ou mauvaise fortune. » Comme c'est le cas pour les superstitions publiées par les revues dépravées concernant l'astrologique et les chances qui y sont attribuées. Naam. Beaucoup de musulmans, ils achètent les journaux spécialement pour lire l'horoscope. Il est content quand il lit l'horoscope. Oh, tu es un sagittaire. Et cette semaine, beaucoup d'argent va rentrer. Tu vas faire une connaissance grande, yani, mashallah, naam. Et il va t'arriver quelque chose qui va te faire vraiment plaisir. Et comme ça. Attends-toi dans 10 jours à yani, faire rentrer de l'argent avec de la pelle. Comme ça, ils te disent. Non. Alors que c'est quoi? Mensonge sur mensonge. Mensonge sur mensonge. Ce sont des choses, il y en a pour duper les gens de la masse. Et chahféon, comment dire en arabe, chah, pour celui qui n'apprend pas sa aqida et qu'on le ruse et on le trompe. Il le mérite. Il le mérite. Non. Sinon, ces gens, comment ils vont travailler si tout le monde apprenait le din? Non. Alors cela, ils sont des proies à ceux-là. Non. Celui qui apprend son din, il ne tombe pas dans le piège de ceux-là. Il sait que c'est mensonge sur mensonge. Et tout ce qu'ils disent, c'est standard. Vous savez que ça veut dire c'est standard. Aujourd'hui, ils l'ont mis pour Sagittaire, demain, ils vont le mettre pour Lion, demain pour, je ne sais pas comment s'appellent les autres, j'ai oublié, Sagittaire, Lion, Corbeau, je ne sais pas, bon, il n'y a pas Corbeau, mais il y a beaucoup de choses. Poisson, voilà, poisson. Zid, qu'est-ce qu'il y a là? Zid, wahda, cancer, a'oudou billah. Al-Muhim, c'est standard. Aujourd'hui, demain, là, demain. Et les autres msakin, les gens de la masse, ils croient que c'est vrai. Et des fois, yani, il est, mashallah, heureux. Il dit, j'ai lu qu'il va m'arriver telle et telle chose. Et des fois, il est heureux. Il dit, j'ai lu que, yani, il va y avoir un grave accident. Et miskin, il va pas dormir peut-être une semaine ou 10 jours. Non, ils vont le rendre malade, a'oudoubillah. Ils vont le rendre malade. Et c'est pas la peine de vous dire que celui qui lit ça, seulement la lecture, 40 jours, n'est pas accepté sa salat. S'il lit, sans croire ce qu'il y a, croit en ce qu'il y a, il aura mécru en ce qu'a fait descendre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran. Parce qu'il aura dit,
Il aura dit donc, yani le verset vrai. Donc ceux-là connaissent l'avenir et dans une semaine, voilà ce qu'il va m'arriver. Mais si jamais il lit seulement, il dit pour passe-temps. 40 jours, sa salat ne va pas être acceptée. Non. Maintenant, s'il va lire pour réfuter, c'est permis. Il va dire, bon, je suis né par exemple Sagittaire, et voilà Sagittaire, je vais voir qu'est-ce qu'ils vont dire cette semaine. Ils ont dit telle et telle chose, il va t'arriver telle et telle chose. Ensuite, j'écris à celui qui a écrit ça. Ou bien le truc, la personne qui a signé son nom en bas de l'horoscope. Et je lui dis, espèce de grand menteur, espèce de yani, voyou. Regarde, tu as dit ceci, ceci, alors c'est le contraire qui m'est arrivé. Voilà. Et tout ce que tu dis, c'est mensonge sur mensonge. Voilà ce que dit le Coran, voilà ce que dit Gda. Ici, voilà, ruseur. Et si tu as lu, ce n'est pas pour dire, mais pour réfuter. Cheikh Ibn Uthaymeen a dit, si tu vas chez un devin, pour réfuter ce qu'il dit, c'est permis. Tu vas chez un voyant, et tu lui dis par exemple, qu'est-ce qui va se passer demain? Il te dit, demain, il va se passer telle et telle chose. Et tu commences à le réfuter. Tu lui dis, non, c'est pas vrai, c'est des mensonges. Regarde là ce qu'il a dit, regarde ceci, le hadith, ça c'est permis. Pourquoi? Tu n'es pas allé pour l'écouter, mais tu es allé pour le démolir. Tu es allé pour le détruire. Tu as des quoi? Tu as des hasanats pour avoir fait cela. Mais Cheikh Mouhamed a dit, ce n'est pas n'importe qui peut aller chez lui. Ce sont les savants, les gentils. Non. Car tu peux aller chez lui, tu n'es pas balèze dans le sens religieux. Car beaucoup d'eux connaissent le Coran, vous savez. Beaucoup d'eux connaissent le Coran et ils emploient le Coran pour ruser. Quand tu rentres, ils commencent par les versets. Masha'Allah, la quwata ibla, alhamdulillah, rabbil alamin. Allah commence à faire des doigts, etc. Donc, ils citent des versets. Pourquoi? Il y en a pour te ruser que tu dises, Masha'Allah. Yani, donc ce qu'il va dire, c'est ce qu'il va prédire, c'est en se basant sur le Coran. Il ne travaille pas avec les shayatins. Alhamdulillah. C'est Adam Soleil. Non, c'est lui qui travaille. Il se base sur Alhamdulillah. Il dit, Cheikh Hafidah, il se peut que certains ignorants et faibles de foi, vous avez entendu, ignorants, ou bien faible de foi, aille consulter ses astrologers au sujet de leur avenir, leur mariage, etc. Je connais une femme, pourquoi le chéri a dit ici, certains ignorants et faibles de foi. Je connais une femme, elle n'est pas ignorante dans ce sens, elle sait que ceci est haram, et que c'est du shirk, ça peut rentrer dans la mécréance. Et une fois, elle m'a dit, je suis allé le voir. Pourquoi? Comme a dit ici le cheikh, il a dit, faible de foi. Quand l'affaiblit, tu dis, je n'ai plus d'autre solution que d'aller chez le devin, chez la sorcière. Ça y est, je n'ai plus d'autre solution. Moi, j'ai pas trouvé mes bijoux. Et comment je vais faire? Là où j'ai demandé, on m'a dit, il n'y a pas. Une voisine qui m'a dit que telle sorcière, elle peut te des bijoux. Ya Rabbi Smahli, j'ai ma foi faible. Je vais faire ce péché, ensuite je vais faire Touba. Ya Rabbi Smahli. Naam. Et bien sûr que ça c'est très grave. Ça c'est très grave. Naam. Car le vrai musulman c'est celui qui revient vers Allah. Subhanahu wa ta'ala. Dans tous ses malheurs. Naam. Dans tous ses problèmes. Dans toutes ses difficultés. Naam. C'est là-bas en revenant vers Allah. Dans ces cas pareils qu'il prouve que. Yani vraiment il adore Allah Azza wa Jal. Iyaka na'bud, iyaka nasta'in. C'est toi qu'on adore. Et c'est à toi qu'on demande l'aide. Iyaka nasta'in. Pas au sorcier. C'est pas au sorcier que je demande de l'aide. Tu vois, tu lis cette sourate. Yani combien de fois par jour? Dans chaque salat, des fois quatre fois. Dans le dhar. Quatre fois dans l'asr. Trois fois dans le maghrib. Et comme ça. Et ensuite tu vas chez le sorcier. Alors toute la journée tu disais, c'est pas que je demande de l'aide. Et tu es allé demander de l'aide au sorcier. Tu vois que tu mens. Tu vois qu'on est des fois. Non. Donc,
pour les interroger au sujet de leur avenir, leur mari. Alors que celui qui prétend connaître l'invisible ou qui croit à cette prétention est considéré comme associateur et mécréant. Car il prétend associer à Allah Azza wa Jal dans l'une de ses spécificités. Naam. Dans l'une des spécificités divines. Qui est quoi? Que seul Allah Ta'ala connaît l'avenir. Seul Allah connaît l'invisible. Et toi, tu as dit, cette personne connaît l'invisible. Quelle est la preuve? La preuve, tu es allé vers elle, lui demander de te parler de choses qui ont rapport avec l'avenir. Car si dans ton cœur, tu avais dit et attesté que cette personne ne connaissait pas l'avenir, jamais tu ne serais allé vers elle. Vous avez compris? Si maintenant, moi, quelqu'un va me dire, je vais aller chez telle voyante, elle va me dire où sont mes bijoux. Non. Moi, j'ai dans mon cœur qu'elle ne peut pas savoir. Pourquoi? C'est un mensonge. Et ça ressort de l'avenir. Et l'avenir, seul Allah Ta'ala le connaît. Donc c'est pour ça que moi, je ne vais pas chez elle. Mais toi, tant que tu veux aller chez elle, c'est que tu as dans le cœur que personne connaît l'avenir. Sinon, tu n'aurais pas perdu ton temps pour aller là. En réalité, les astres ne sont que des créatures assujettis qui ne décident de rien et qui n'indiquent ni malheur ni bonheur, ni vie ni mort. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand son fils Ibrahim alayhi sallam, est mort à l'âge de 8 mois, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu comment tifaq, ça a concordé, il y a eu concordance entre sa mort alayhi sallam, et l'éclipse du soleil. Alors certains ont cru que, yani, puisque le fils du prophète, alayhi sallam, et vous savez c'est qui le prophète, alayhi sallam, puisque son fils est mort, donc comment le soleil s'est éclipsé. Non. Yani, en signe de tristesse et de compassion pour le prophète, alayhi sallam. Et le prophète, même que si c'était moi ou une autre personne, j'aurais dit laisse les croire ainsi, c'est dans mon avantage, ça c'est dans mon avantage qu'ils disent que je suis mashallah au point où le soleil s'est éclipsé à cause de moi, mashallah, laisse les gens parler. Blacks, au contraire, propager, c'est dans mon avantage, je deviens réputé. Mais le prophète aslam ment, c'est le serviteur d'Allah Azza wa Jal qui a été envoyé spécialement. Si quelqu'un ou quelque chose à Allah Ta'ala, il leur dit non, jamais le soleil ne s'éclipse pour la mort de quelqu'un. Ça n'a rien à voir avec la mort de mon fils. Allah l'adem. Cheikh Fawzan dit, l'astronomie des démons qui essayent de dérober la parole des anges. Voilà, inshallah ta'ala, pour le cours d'aujourd'hui, qui est court, et le prochain cours, le cours est court. Le prochain cours, inshallah ta'ala, ce sera la sorcellerie, la voyance, la sorcellerie, la divination.
Donc, cher inshallah, c'est quand vous le voulez.
Salam alaikum. Abou Zakaria, qu'est-ce que tu as dit?
Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Je vous ai juste dit que les questions sont prêtes, donc quand vous voulez, on commence, inshallah.
تفضل ان شاء الله تعالى شو بخير تفضل اي الى 20h chez moi 25 minutes on arrête inchallah تعالى 22h maximum 22h05 تفضل.
بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. Première question d'un frère cher qui demande et qui dit d'abord Hayakum Allah Sheikh. Vous avez dit qu'Allah permet de voir l'invisible à certains de ses serviteurs, notamment les prophètes. Est-ce permis, est-ce aussi, est-ce possible également parmi les gens de la masse? Jazakum Allah Khair Sheikh.
بارك الله فيك عاود لا كيسيون جزاك الله خير اعيد لا كيسيون
نعم دونك الشيخ غادي اون سارت فير 22h05 ماكسيموم entre 22h et 22h05 دونك لا كيسيون شيخ حياكم الله vous avez dit qu'Allah permet de voir l'invisible à certains de ses serviteurs notamment les prophètes est-ce possible parmi les gens de la masse également بارك الله فيكم شيخ
Non, c'est spécialement pour les messagers. J'avais bien dit cela, et je vous rejoue, il dit, c'est spécialement pour eux. Écoutez ce qu'il dit. Écoutez ce qu'il dit. Hein? Écoutez ce qu'il dit. Il a dit, cela concerne, je cite, cela concerne le messager angélique, des anges ou humains, et personne d'autre, et personne d'autre, et personne d'autre. Le verset s'étend limité à eux. Le verset s'étend limité à eux.
Barakallahu fikoum cheikh. Je ne sais pas pour les autres, mais pour moi, il y a un petit décalage quand vous parlez, et des fois ça bloque. Donc est-ce que c'est uniquement chez moi ou est-ce que Foubzi ou Muslim vous avez aussi ce problème? Tatani ta'amallah. Donc apparemment Foubzi a un satellite spécial. Alhamdulillah. Donc on va réessayer, Inch'Allah. Question suivante d'un frère qui dit Assalamu alaikum. Donc j'ai rêvé que la famille de ma femme nous avait ensorcelés dans le manger. J'ai rêvé de cela 3 fois. Après cela, j'ai fait ruqya et le djinn qui me possédait a donné le nom de la personne qui nous a ensorcelé. Elle correspond au prénom de la personne dont j'ai rêvé 3 fois. Est-ce une sorte de voyance, cher? Dois-je comprendre en fait ce qu'il a dit? Barakallahu fikum. Non, cher, pas uniquement en Algérie, parce que des personnes en France m'ont dit la même chose.
Donc, est-ce qu'il y a un problème au point où je dois sortir et revenir? Est-ce qu'il y a un problème au point où je dois sortir et revenir? Ou bien non? Alhamdulillah, donc non. Si quelqu'un voit quelque chose dans le rêve, ensuite, dans la réalité, il fait ruqya et le djinn lui dit, lui donne un nom, et ce nom correspond au nom qu'il a vu dans le rêve. Malgré cela, il ne faut pas croire quoi? Ce qu'a dit le djinn dans la ruqya. Naam. Le djinn, naam, dans la ruqya. Celui, ce djinn-là. Le moindre statut qu'il a, c'est quoi? Le moindre statut. C'est un pervers. Sinon, c'est un kafir. Naam. Sinon, kafir, sinon pervers. Car un djinn pieux ne viendrait pas transgresser ce qu'a dit Allah Ta'ala et son prophète Aslam, qui leur a interdit de posséder des êtres humains. Donc, celui-là, en possédant une personne et en rentrant dans elle, dans son corps, ça veut dire déjà que c'est au moins. Sinon, c'est un kafir. Et toi, le fasir, tu ne dois pas le croire. Jaakum fasirun binaba'in. Ida jaakum fasirun binaba'in. Fatabayyanu. Tu ne dois pas le croire. Mais, yani, le shaitan joue beaucoup. Il joue dans le songe. Peut-être c'est le même shaitan qui t'est venu dans le songe, t'a donné un nom, ensuite est venu dans le corps de la personne et t'a donné le même nom pour te faire tomber dans son piège et dire subhanallah, ça a concordé. Donc, c'est vrai ce que dit ce djinn. Et il va te faire tomber dans le shirk à Audhu Billah. Et tu vas accuser une personne qui, peut-être, ne t'a jamais fait cette chose. Là, tu l'accuseras quand tu trouveras le sihr chez elle. C'est pas en te basant sur ce que dit le djinn ou ce que dit le songe. Tfadal.
Barakallahu fikoum, cher. Question suivante d'un frère qui dit: dans ma ville, il existe des frères qui pratiquent la ruqya avec l'aide des djinns. Ils pratiquent du captage de djinns, ruqya sur Skype payant. Ces frères prétendent que des savants autorisent cette pratique. Ce sont des élèves de Malima Abdelraouf qui dit que son djinn a combattu à la bataille de Badr et qui peut lui faire confiance aveuglément. Que pensez-vous de cette pratique sans fatwa, cher Wawan?
Je ne connais pas ce Ben Halima dont vous venez de parler. Imam ou un qui fait la ruqya ou n'importe quoi. Mais je dis, si ce Ben Halima a dit cette phrase et qu'il a dit que son djinn a résolu Badr, celui-là, dites-lui que c'est un égaré égareur. Date de toi, un égaré égareur. Égaré en toi-même. Parce que vraiment, tu es loin du haq, loin de la sunna, loin de la science religieuse, et égareur, que tu égares les gens, et que yom al-qiyama, que, yani, tout ce qui leur est arrivé comme égarement, c'est toi qui vas l'endosser. C'est toi qui vas l'endosser. Personne d'eux n'ira jusqu'à ce que tu commences toi le premier. Sauf si tu as fait tawba, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Quant à dire, la deuxième chose, que les savants ont permis ce genre de ruqya, je dis, c'est mensonge sur mensonge sur mensonge. S'il parle des savants de la bid'a, oui, les savants de la bid'a ont permis cela. Mais s'il veut dire les savants de la sunna, que Cheikh Rabi l'a permis, Cheikh Fawzan l'a permis, Cheikh Souhaim l'a permis, Cheikh Ibn Uthaymeen l'a permis, Cheikh Al-Albani l'a permis, Cheikh Salah Al-Sheikh l'a permis. Je lui dis menteur, 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 menteur. C'est ton djinn qui l'a permis. Naam. Ensuite, tous ceux qui font comme ça la ruqya, si on règle, toute personne qui fait la ruqya comme fonction, travail, on dit en arabe hirfa, yahtarif. Il ne fait pas ça pour aider les gens. Même si on lui donne de l'argent, mais allez, s'il a pris comme ça de l'argent. Mais celui-là, il fait par fonction. Il te dit, voilà, tu me donnes tant, et quand tu rentres pour faire l'enquête, tu payes, et il y a quelqu'un que tu dois payer, ou peut-être même tu prends un bon, peut-être. Tout cela, ce sont les gens de la bida. Toute personne qui fait la ruqya comme travail, cette personne, dites d'elle que c'est un mubtadi'. C'est un mubtadi'. Non, les salafs n'ont jamais fait comme fonction de travail, comme celui-là il est imam, l'autre il est juge, l'autre il est enseignant, celui-là il est raqi. La ruqya, tu l'as fait, il y a un fils abidlah, quelqu'un qui est malade, tu l'aides. Maintenant si jamais il a voulu te donner de l'argent et tu as pris, plus ou moins. Au point où Cheikh Rabbi Hafidlaullah a dit, il n'est pas permis, de quoi ? De faire une condition, de dire, donnez-moi tant ou je fais pas la ruqya. Comme font certains frères. Tu dis, c'est par exemple 100 euros, sinon je fais pas la ruqya. Et certains profitent sur des riches. 10 000 euros. Et comme ça, a'oudou billah. Quand on a dit à Cheikh Rabbi, on lui a dit, mais il y a un hadith. Cheikh, on va dire à Cheikh Rabbi, hafidakallah. Il y a un hadith authentique dans Sahih al-Bukhari que Abi Saïd al-Khudri radiallahu ta'ala anhu a fait une ruqya à des gens et avant de faire la ruqya leur a demandé 30 moutons. Le hadith se trouve dans Sahih al-Bukhari. Il a dit, vous me donnez 30 moutons ou je ne fais pas la ruqya. Comment va te répondre Cheikh Rabi'a Hafidhahullah? Comment il va te répondre? Tu vois, normalement, qu'est-ce qu'il va dire? Tu l'as coincé. Il va dire, oh, qaddar Allah ta'ala. Je ne savais pas qu'il y a ce hadith dans Sahih al-Bukhari. Donc, d'après vous, c'est permis de faire une condition comme l'a faite Abu Saïd al-Khudri. Mais, puisque Cheikh Rabbi Hafidhahullah, c'est une montagne de science, Asabu Kadalik, walau zaki Allah ahadan. Qu'est-ce qu'il a répondu? Il a répondu, celui-là, Abu Saïd al-Khudri, quand il a fait une condition, il a dit, donnez 30 moutons. Naam, c'est par garantie. Donne-moi 30 moutons, je te garantis que tu seras soigné, bi'idhnillahi ta'ala.
Et la personne à laquelle il a fait la ruqya, il lui a lu seulement le Fatiha cette fois, elle s'est levée comme si jamais elle n'est tombée malade. Alors que celui-là, qui te dit donne-moi 100 euros d'avance, à 95%, tu ne guériras pas. Donc c'est tout à fait le contraire. Car il ne te garantit pas. Fadal.
Barakallahu fikoum, cheikh. Question suivante d'une sœur qui dit: cheikh, qu'Allah vous préserve, ma question concerne le cours précédent. Lorsque l'homme a délaissé la prière et la femme a apostasié, à qui revient la garde des enfants? Jazakumullah khaira. Donc l'homme a délaissé la prière et la femme a apostasié. Mamstan.
Je profite pour dire s'il y a une personne ici dans le salon à laquelle j'avais promis de lui répondre, comme ça en direct sur le salon, car elle a dit j'ai vu un film et il y avait une relation de haram, etc., etc. Est-ce que cette personne est là ou pas? Si elle n'est pas là, je lui réponds pas. Si elle est là, qu'elle dise aux admins je suis là. Elle même, quand une personne apostasie ou bien délaisse la salat, et si jamais, bien sûr, maintenant il y a la séparation entre les deux, comme vous savez, en islam, jusqu'à 7 ans, l'enfant reste chez sa mère, à condition qu'elle n'a pas apostasié ou qu'elle n'a pas quitté la prière. Sinon, on donne l'enfant au meilleur des deux. Et le meilleur des deux ici, c'est sûrement celui qui n'a pas apostasié. Celui qui n'a pas apostasié, c'est lui qui aura la garde des enfants, bi'idhnillahi ta'ala. Fadal.
Également, à chaque cours, on me rappelle de vous poser une question sur la salat du Jumu'ah à l'aéroport. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc, c'est juste pour vous le rappeler et si vous avez pu faire les recherches, Allah. Madame Cheikh.
J'avais dit à ses frères que j'avais envoyé, ou que j'allais envoyer, Allah alam, une lettre, ou leur question, à Cheikh Ubayd al-Jabiri, hafidahullah. Et le Cheikh, hafidahullah, est malade ces temps-ci. Mais, il a promis que cette semaine, inshallah ta'ala, il lira, même, ce que j'ai envoyé comme question, et entre autres, celle-là, bi'idnillah subhanahu wa ta'ala. Tfadal. Donc, qu'il patiente encore. Qu'il fasse salat al-dhur et tfadal.
Barakallahu fikoum, cheikh, et qu'Allah guérisse cette personne, Inch'Allah. Une question suivante. La sœur nous a demandé si elle était présente, elle est bien, la cheikh. Donc si vous voulez lui répondre.
Naam. Donc il y a une sœur. Elle a dit que, bon, ça fait quelques jours, elle a vu un film. Je crois à la télé, ça m'étonnerait qu'une sœur aille au cinéma. À la télé, et que dans ce film, il y avait quoi? Ça parlait d'une relation amoureuse entre deux mécréants. Deux mécréants, moi j'ai compris que c'était un homme ou une femme. Un homme et une femme. Je n'ai pas compris entre deux hommes ou les deux femmes. C'est comme ça que j'ai compris. Elle dit, est-ce que, yani, j'ai fait un péché, est-ce que ça se contredit avec le tawhid? Je dis, Wallahu ta'ala alam, c'est un peu étonnant qu'un frère ou une sœur reste comme ça devant la télé à voir des films où il y a ce genre de relation. Naam. Car s'il y a ce genre de relation dans le film, ça doit se terminer par ils vont se rencontrer, vont s'enlacer, vont s'embrasser et vont faire des choses. Donc tout ce qu'ils font, j'aurai une part de responsabilité devant Allah Ta'ala dans le péché. Car j'ai assisté avec eux le péché. Et j'étais ravi de ce qu'ils faisaient. J'ai agréé. La preuve. Si je n'étais pas ravi, qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais éteint la télé, j'aurais craché dessus. Je crache sur l'écran et je ferme la télé. Je dis, les ennemis d'Allah, c'est tout ce qu'ils savent nous montrer. Ils ne nous montrent pas l'islam. Ils nous montrent seulement des choses pareilles. Mais tant que tu restes et que tu vois qui sont en train de s'embrasser, ou alors faire plus grave, ça veut dire que tu as une part du péché avec eux, Yom al-Qiyama. Tu dis à cette sœur, peut-être tu ne savais pas, demande, fais-le repentir, et demande à Allah subhanahu wa ta'ala de pardonner, c'est le grand pardonneur. Naam. Je ne dis pas que tu as fait un grand péché, non. Je dis que tu as fait un petit péché, mais demande à Allah subhanahu wa ta'ala de pardonner, et je te donne le conseil de ne pas, naam, de ne pas passer ton temps en face de la télé. Naam, car la télé va te prendre beaucoup de ton temps, alors qu'on est au début de l'apprentissage du din, le début. Et qu'est-ce qu'il reste? Est-ce que moi j'ai appris Sahih al-Bukhari pour aller voir le film? Est-ce que j'ai appris Sahih Muslim? Est-ce que j'ai appris Tirmidhi? Est-ce que j'ai lu les livres de la Aqidah? Est-ce que j'ai lu les livres du Fiqh? Est-ce que j'ai lu les livres de la Sirah? Est-ce que j'ai lu tout ça? Il ne me reste plus rien à faire, je vais maintenant voir un film. À la rigueur. Je vais voir un film, et je vais voir quelque chose sur les animaux, sur la nature, sur je ne sais pas quoi, sur la mer, les montagnes, les cieux, les perroquets. Mais je ne vais pas voir un film où on va parler d'amour et de relations amoureuses. Ça, c'est vraiment grave. Naam, ça, c'est vraiment grave et ça peut éveiller en nous. Ça va éveiller en nous des choses. Et nous pousser ensuite à faire le haram et à, comment dire, à souhaiter comme eux. Regarde cela, qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi moi je fais pas comme eux? Celle-là, elle a un homme. Pourquoi moi j'ai pas un homme? Celui-là, regarde, il est avec une belle femme. Pourquoi moi j'ai pas une belle femme comme lui? Pourquoi? Et comme ça, le shaitan va t'embellir la dunya. Il va te pousser vers le haram, a'oudou billah. Mais éloigne-toi de ces choses et Allah subhanahu wa ta'ala te remplira ton cœur d'amour pour lui. Naam. Et de l'amour de son din et du prophète al-salam, des sahaba et de la sunna. Naam. Tfadlan.
Barakallahu fikoum, cher. Donc, concernant le moine chrétien qui a prédit au prophète al-salam sa carrière prophétique alors qu'il n'était qu'un enfant. Comment a-t-il fait pour le prédire, cher? Barakallahu fikoum pour cette question, pour cette réponse.
Il n'a rien prédit. Il a lu dans les livres, la Torah, que le prophète a.s.w. était cité, c'est tout. C'est comme si toi maintenant, tu tombais sur la vraie Torah qui n'a pas été falsifiée, si jamais tu pouvais trouver, alors qu'il n'y en a pas, tu vas trouver que le prophète, c'est écrit que quelqu'un va venir qui s'appelle Ahmed ou Mohammed. Et voilà ses caractéristiques. Et quand il l'a vu, il l'a reconnu, il a dit c'est lui. Je savais que tu allais venir, c'est tout. Donc il n'a rien prédit, mais il s'est basé sur des textes scriptuaires. Bi-idnillahi ta'ala. Tfadlal.
Question suivante, cher. Barakallahu fikoum, cher, pour le bien que vous nous procurez. Ma question est la suivante. Parfois, j'ai l'impression de connaître la réponse dans une conversation. Est-ce que cela est de mon savoir ou un shaitan me souffle la réponse? Barakallahu fikoum. Tfadal, cher.
Juste avant de répondre à cette question, inshallah ta'ala, et si j'oublie, rappelez-moi, c'est quoi la question? Vous m'entendez? Je l'ai dit une fois. Le meilleur de nous que Allah subhanahu wa ta'ala aime est celui qui n'a pas la télé à la maison. Le meilleur de nous, c'est celui qui n'a pas la télé à la maison. Maintenant, s'il l'a, le meilleur de nous serait celui qui la commande. C'est pas elle qui commande. C'est toi qui commandes quelles sont les chaînes qu'il faut laisser, les chaînes qu'il faut enlever, qu'est-ce que je dois voir, ne pas voir, que doivent voir les enfants, qu'est-ce qu'ils doivent pas voir, et comme ça. Naam. Ça fait pas longtemps, peut-être 15 jours seulement. Une sœur, mashallah, c'est beaucoup d'écoles, je la connais pas, mais d'après ce que j'ai compris d'elle, elle dit que, naam, maintenant, subhanallah al-azim, elle dit qu'elle priait la nuit, etc. Maintenant, quand elle a commencé à faiblir, elle a des raisons familiales, elle a dit que maintenant, subhanallah al-azim, elle voit des films pornographiques. Subhanallah al-azim. Subhanallah al-azim. Allah al-musta'an. Qaddar Allah ma shafa'al. Des films pornographiques. Ma'ad Allah. Et ça s'arrête pas ici. Des films pornographiques,
Ensuite, bien sûr, il y a des choses qui s'éveillent en elle. Ensuite, il n'y a pas quelqu'un avec qui faire le haram. Ou alors, alhamdoulilah, elle a peur de faire le haram. Et mariée, je dis mariée, peur de faire le haram. Alors maintenant, elle fait le haram avec elle-même. C'est-à-dire en faisant des choses avec sa main. Et comme ça, a'udhu billah. Regardez comment yani, le shaitan, petit à petit, ensuite, quand maintenant la personne, une personne commence à voir les choses pornographiques, ça veut dire maintenant tout est permis pour elle. Je ne peux pas voir quelque chose de pornographique et ensuite aller lire le Coran. C'est pas possible. Quand je vois une chose pareille, il faut que j'aille assouvir mes passions. Parce qu'il y a quelqu'un qui vient de sang. Comment éteindre le feu maintenant qui est dans mon corps? La moindre des choses serait de faire le haram yani, avec moi-même, en moi-même. Et ça, c'est vraiment un péché. C'est Allah subhanahu wa ta'ala l'afiya. Mais si la personne, au lieu d'aller voir les films pornographiques, était allée vers le Coran, il aurait dit, Ya Rabbi, aide-moi, Ya Rabbi, je suis faible, Ya Rabbi, ouvre-moi tes portes, Ya Rabbi, comme ça, non? Allah ta'ala l'aurait guidé. Il lui aurait ouvert ses portes, aurait fait descendre la miséricorde dans son corps, dans son cœur, afoun, naam, et aurait éloigné d'elle le shaitan, a'udhu billah, avec ses pièges, naam. Même si cette personne yani, a des problèmes, car yani, vraiment son mari la prive de son haq, naam. Mais quoi qu'il arrive, naam. Vous savez qu'en islam, si un mari ne veut plus s'approcher de sa femme, que dit la charia? La femme doit attendre 4 mois. 4 mois. 1 mois. 2 mois. 3 mois. 4 mois. Le 4e mois arrivé, jour par jour, comme c'est dans le Coran, elle dépose une plainte chez le juge musulman qui l'appelle le même jour. Il le présente devant lui. Il lui dit, tu choisis entre 2 choses, entre 2, il n'y a pas 3. Tu approches ta femme, tu l'approches, c'est-à-dire charnellement, tu l'approches, tu lui donnes son haq. Ou bien, je te la divorce. Naam, je te la divorce malgré toi. Toi, tu dis, non, c'est ma femme. Moi, je te dis, non, c'est pas ta femme. Je la divorce dans une demi-heure, maintenant. Elle termine sa viduité, elle va se marier. Naam, regardez en islam comment Allah Ta'ala, pour tellement yani, il aime la justice, comment quand il voit un mari qui est injuste comme ça, injuste, 4 mois il ne veut pas s'approcher de sa femme, il la lui enlève de force. Là, ce n'est plus ta femme. Tu dis, comment c'est ma femme, j'ai donné la dot, c'est pas ta femme, le juge te l'enlève. C'est plus ta femme. Il la marie à un autre qui l'aime, qui va la chouchouter, va s'approcher d'elle, non, va être collé à elle. Je vais te montrer moi. Je vais te montrer comment 4 mois tu l'approches pas. Je vais te montrer. Alors pourquoi tu t'es marié? Si toi tu peux tenir 4 mois, c'est que vraiment, yani, tu dois faire des choses. C'est pas possible. On sait pas ce que tu fais toi dehors, ou qu'est-ce que tu regardes, ou je ne sais pas ce que tu fais avec ta main ou autre chose, pour tenir 4 mois. Il n'y a pas 4 mois. Non. Al-Muhim, que Allah subhanahu wa ta'ala nous aide et nous guide. Naam. Donc, qu'est-ce que je disais? Tayyib, rappelle-moi c'était quoi la question. Rappelle-moi, écris un mot, c'est tout. C'était quoi la question? Sinon, je te donne le micro pour qu'on ne perde pas de temps. Tfadlal.
Non, cher, en un mot, ça va être difficile de résumer. La personne disait, parfois j'ai l'impression de connaître la réponse dans une conversation. Est-ce que savoir ou un shaitan me souffle la réponse? Tfadal, cher.
En fait, quand tu me lis comme ça la question que j'ai oubliée, il faut donner juste un mot. Je dis, il y a en islam quelque chose qui, ça, ce qu'on appelle un peu, nous, maintenant, pas en islam. En arabe, ça s'appelle hadas. Non. Des fois,
Yani, tu es intelligent, mashallah, tu te bases sur des choses qu'on appelle en arabe le qara'in, et tu sais à peu près qu'il va te donner telle ou telle réponse. Ça, ça rentre pas dans le haram, ni dans la, y a le fait d'être devin, ni d'être un charlatan, ni rien. Non. Ça, c'est comme si, par exemple, tu as deux garçons, non, et même ce sont des jumeaux, et pourtant, yani, tu dis par exemple, qui va m'acheter par exemple le sel? Il n'y a pas de sel à la maison, qui va acheter? Et d'avance que c'est X, c'est-à-dire moi je vais acheter, et tu sais d'avance que Y, le deuxième, va dire, oh moi je suis fatigué, oh pas, j'ai ma tête qui me fait mal. Tu n'as rien prédit, mais tu sais que d'après yani, leurs habitudes, d'après yani, combien de temps tu es resté là, maintenant tu commences à les comprendre, à les comprendre. Et avant qu'ils ne parlent, tu sais à peu près quelle sera leur réponse dans certaines circonstances. Bi'idhnillahi ta'ala. Naam, tfadlal.
Naam, cher. Par rapport à la réponse que vous avez apportée sur la sœur qui vous avait posé la question sur le film qu'elle a regardé et que vous aviez dit qu'elle avait une part. Dans une part de responsabilité dans le haram. Une sœur demande concernant les dessins animés, est-ce que c'est la même chose lorsqu'il y a du shirk dans les dessins animés et qu'on laisse par exemple les enfants regarder? Est-ce que nous avons une part de responsabilité là-dedans, dans ce qui est fait? Tfadal Cher.
Non, s'il y a du shirk dans le dessin animé, ça devient vrai. On va sans le vouloir, yani on va pousser les enfants à yani avoir une fausse aqida, à croire que naam il y a ce Papa Noël qui descend, yani il est descendu du ciel, il donne des cadeaux le 25 ou le 1er du mois, je ne sais pas quoi, et qu'il a été je ne sais quoi. Si on laisse les enfants voir cela, c'est que c'est vraiment grave. Naam, pourquoi? Parce que ils vont avoir une fausse aqida. Le Mawlid, chaque enfant né musulman, ce sont ses parents qui quoi mettent dans le judaïsme ou bien Mazdéen. Salam alaikum. Est-ce que là c'est mieux? J'espère. J'ai pas remarqué le whisper. Tfadlal, une autre question, inshallah ta'ala.
Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc pour l'instant, c'est bon, cher. Question suivante, question d'une sœur. À chaque fois que j'ai un prétendant, mes parents consultent des charlatans pour, selon eux, savoir si c'est le bon. Donc si le sorcier leur dit ok, c'est bon, ils acceptent le frère, ou dans le cas contraire, ils refusent. Parfois, il leur dit que j'aurai tel et tel problème avec le frère, comme le fait que je serai victime de sihr, ou que la famille du frère ne voudra pas de moi, que je divorcerai, etc. Et ça, c'est presque un passage obligatoire à chaque fois, même quand je leur dis que je désapprouve cela et que je n'y crois pas. Suis-je fautive en suivant leur démarche? Car je n'y peux rien et que j'ai besoin de leur consentement pour me marier. Barakallahu fikoum. Tfadal Cheikh.
En principe, déjà, quelqu'un qui fait comme ça, quelqu'un, un tuteur qui fait comme ça, il perd la tutelle. Il perd la tutelle, yani, quand il fait comme ça, en allant faire ce chic. Maintenant, c'est si c'est seulement lui qui marie et que yani, toi tu consens que yani, tu reconnais que c'est difficile qu'un autre te marie et les problèmes et etc. Dans ce cas yani, tu patientes, mais c'est pas eux qui choisissent le mari, là c'est toi qui choisis, sauf bien sûr s'ils te choisissent quelqu'un qui remplit les conditions. Et tout ce qu'ils disent quand ils viennent de chez le devin, là, il faut les entendre, encore moins, et encore moins les croire dans ce qu'ils disent. Et alhamdoulilah, je pense que tu es ainsi, puisque tu dis que je désapprouve ce qu'ils font.
Donc toi, inshallah ta'ala, tu n'as aucune responsabilité ici. Non. Ce sont eux qui vont encaisser yawm al-qiyama. Bi-idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Tfadhal.
Question suivante, question d'une sœur. Ma question porte sur le cours que nous avions fait sur l'ostentation. Donc j'aimerais savoir, Inch'Allah, si nous avons le droit de faire de l'ostentation pour des choses de la dunya. Comme lorsque l'on a un tel ou tel diplôme ou lorsque l'on est étudiant dans tel domaine. Barakallahu fikoum. Tfadal cheikh.
Non, l'ostentation est haram dans toute chose, que ce soit dans la dunya ou autre. Non, le hadith, il y a un hadith du prophète al-Islam qui a dit que c'était permis, par exemple, si c'est dans le combat, dans le sentier d'Allah, que c'est permis de se montrer comme ça, orgueilleux, non, quand on va rencontrer l'ennemi et de lui montrer que c'est comme si presque on dansait dans le hadith. Et un autre hadith qu'il a dit que c'est aussi quand quelqu'un va donner une aumône au sabillah et qu'il n'y a personne qui le voit, etc. Mais si non, pour montrer qu'on a des diplômes, etc., tout ça c'est interdit. Non, tout ça c'est interdit. Et ça fait quoi? Ça fait chagriner aussi les autres qui n'ont pas le diplôme. Non, il faut être modeste. Non, moi je connais, par exemple, je vous donne un exemple. Allah Iberg, je connaissais quelqu'un quand j'étais au Koweït, un Algérien. Il est venu au Koweït et il avait un doctorat dans la charia. On l'a embauché, puisqu'il cherchait ça, dans ce qu'on appelle le Moussoua al-Fiqhiya. Le Moussoua al-Fiqhiya, vous savez, au Koweït, il y a dans le ministère des affaires religieuses, une partie comme ça, des gens qui ont des hommes de science, qui ont des doctorats au moins, ou magistères, qui travaillent dans quelque chose qu'on appelle Moussoua al-Fiqhiya. Moussoua, c'est l'encyclopédie du fiqh. Quand j'étais là-bas, ils étaient au 40e tome, 40 tomes. Maintenant, peut-être c'est 50, 60. Là, le mot, est-ce qu'ils en sont. Le mot, ce Jazairi, cet Algérien qui est venu travailler là-bas, alors les Koweïtiens, les frères, quand ils ont su qu'il y avait quelqu'un qui avait le doctorat là-bas, ils ont commencé à le contacter pour qu'il fasse quoi? Qu'il donne des cours dans des mosquées. Et bien sûr, quand on va faire cours là-bas, qu'est-ce qu'ils font? Ils impriment. Ils impriment ce qu'on appelle des affiches comme ça, publicité. Comme quoi, il y aura tel cours ou bien tel livre qui va être enseigné, docteur X. Qu'est-ce qu'il disait lui comme condition? Toujours. Je l'accepte, Naam, de donner des cours lorsque vous mettez des affiches, sauf quoi? Sauf si, lorsque vous écrivez mon nom, vous ne mettez pas le D. Le D qui veut dire docteur. Hein? On met D point. X, D par exemple, Zama, Mohamed Chalabi, D. D ça veut dire docteur. Il dit non. Si vous enlevez le D, vous ne le mettez pas dans la publicité, j'accepte. Pour que je... Il ne veut pas qu'on dise de lui c'est un docteur. Naam, docteur, machin, comme certains gens. Naam, il l'aime. Au contraire, hein? Une fois j'ai entendu quelqu'un, il lui a dit, Zama, salam alaykoum, comment allez-vous, monsieur? Il m'a dit que monsieur, tu dis pas docteur. Subhanallah al-Azim. Tu dis pourquoi tu dis pas que je suis un docteur? Faut m'appeler docteur X. Subhanallah al-Azim. Yani le fait de arranger, ça se trouve dans leur cœur. Ils aiment la dunya. Ils aiment qu'on les montre du doigt, qu'on parle d'eux dans les assises, dans les journaux, à la télé, à Audubillah. Et celui-là, il est docteur, il dit j'aime pas. Ne dites pas que je suis docteur. Non, ne dites pas. Je suis quelqu'un qui vous donne des cours, c'est tout. Vous savez que je suis docteur, ça reste entre nous. Subhanallah al-Adem. Regardez la modestie qu'a ce frère, Ahsabu Kadaïk ou le Zikallah Adem. La modestie qu'avait aussi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam.
quand on rentre dans son assise, celui qui ne l'a jamais vu ne sait pas c'est qui le prophète alayhi salam. De nos jours, est-ce que tu peux aller au palais de la présidence et tu sais pas c'est qui le président? C'est possible ça? Tu vas à la présidence et tu sais pas c'est qui le président de la République démocratique. Tu sais pas c'est qui le président? C'est pas possible. Non, vite tu le reconnais. Pourquoi? Il y a les gardes du corps, les ceci, les cela, les... Astaghfirullah. Le prophète, alayhi sallam, tu rentres dans la mosquée. Si tu l'as jamais vu, tu trouves 10 personnes assises, tu vas pas savoir c'est qui. Pourquoi? Il n'a pas le grand divan là, sur lequel il doit s'asseoir, et quelqu'un au-dessus de sa tête, avec l'éventail, en train de lui donner de l'air. Naam. Ni celui-là qui lui fait le fait boire, celui-là qui... rien. Il est assis, cané, avec eux, parmi eux, tu le connais pas. Subhanallah, des mots modestes, naam. Donc, Inch'Allah ta'ala, c'est comme ça qu'il faut être. Quiconque a des diplômes, etc., naam, qu'il les laisse pour lui. S'il veut qu'Allah ta'ala lui bénisse, yani son ilm et sa science. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, écoutez bien ce hadith, qui est authentique. Cheikh Al-Albani a dit, hadith authentique. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, toute personne qui demande la science religieuse, ça c'est spécial pour la science religieuse, qui demande une science religieuse à une fin de la dunya, pour une fin de la dunya, ne sentira pas l'odeur du paradis. Allahu Akbar. Ne sentira pas l'odeur du paradis. Donc, celui qui demande la science religieuse pour qu'il soit réputé, pour qu'il soit, je ne sais quoi, un grand savant, pour qu'on le voit à la télé, pourquoi? C'est ça son but. Il ne sentira pas l'odeur du paradis, a'oudou billah. Naam. Tfadl. Pose la question. On va donner maintenant à Fawzi, question. À la fin du cours, pose-la maintenant, Inch'Allah ta'ala, Fawzi. Pose-la maintenant, Inch'Allah ta'ala, car elle vient by luxe. Pose-la, Inch'Allah ta'ala. Non, sinon, à quoi ça sert? Il va rentrer là-bas, ensuite il ne peut pas poser les questions.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce qu'il y a du son? Alhamdulillah. Alors, question d'un frère. Je fais des cours de soutien en français pour les élèves de 5e primaire, 2 fois par semaine. Barakallahu fikoum de me diriger par votre conseil. En fait, le frère, il voudrait savoir si, par rapport au cours qu'il donne, est-ce que c'est autorisé ou pas. Tafadal cher.
Franchement, j'ai pas compris la question. Tu as dit qu'il donne des cours de français. S'il donne des cours de français, pourquoi c'est pas autorisé? Des cours de français, d'allemand, c'est de judaïsme. Judaïsme, je veux dire la langue des Yahoud. Si tu veux l'apprendre pour connaître que disent les Yahoud et pour analyser ce qu'ils disent et savoir qu'est-ce qu'ils rusent pour les musulmans. Pourquoi? L'hébreu, naam, c'est pas interdit. Toutes les langues sont permises. Donc je ne comprends pas exactement ce que veut dire le frère dans cette question. Tfadval.
En fait, le frère, il voulait savoir s'il y avait un conseil par rapport à l'apprentissage qu'il donne de la langue française, tout simplement. Si c'était autorisé, en fait.
Autorisé, c'est autorisé. Allah Ta'ala dit dans le Coran min ayati khalqu as-samawati wal-ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dhalika la'ayatin lil-'alimin. Et dans une autre version, récitation, inna fi dhalika la'ayatin lil-'alamin. Donc parmi les signes d'Allah Ta'ala, il a dit la diversité dans vos langues, Et le prophète Islam a permis à Usama d'apprendre l'hébreu. Pourquoi? Pour que yani il sache ce qu'ils écrivent et pour qu'ils puisse le répondre. Donc c'est permis d'apprendre à quelqu'un le français, l'anglais, hein, sauf s'il sait que il va l'apprendre pour un but qui est haram. Naam. Quelqu'un vient te dire, je voudrais que tu m'apprennes l'anglais. Un jeune de 18 ans, te dit, écoute, tu peux m'apprendre l'anglais et je te donne 10 euros par séance. Tu lui dis pourquoi? Hein, tu poses une question comme ça, curiosité, pourquoi? Tu dis quand je vais en Angleterre, comme ça, je peux y aller parler aux femmes, pour attirer les femmes, comme on dit entre parenthèses, excusez-moi pour le mot, pour draguer. Tu dis comme ça, je peux le faire. Tu peux m'apprendre l'anglais, je te donne 10 euros par, ou là, 100 euros par cours. Maintenant, si tu lui apprends, tu as fait le haram. Pourquoi? Tu l'aides à y faire le haram en Angleterre. Mais si quelqu'un te dit non, je veux apprendre la langue, juste pour l'apprendre, pour connaître, savoir comment qu'il parle, pour aller là-bas, naam. C'est pas pour aller faire le haram. Maintenant, si c'est pour apprendre pour la religion, encore, c'est encore mieux. Pour y aller faire la da'wa. Moi, personnellement, je regrette beaucoup que je ne connaisse pas l'anglais. Sinon, j'aurais ouvert un salon en anglais. Pourquoi pas? Je regrette beaucoup que je ne connaisse pas l'anglais. Quelqu'un, peut-être certains vont dire, mais vous connaissez l'allemand. Je connais l'allemand, je ne connais pas l'allemand, l'allemand religieux. Je connais l'allemand littéraire. Comment ça va? Donne-moi du pain. Non, j'ai faim, je veux dormir. Allez, va à l'école, achète-moi un crayon. Tac. Voilà. Mais je ne connais pas l'aqida et le fiqh en allemand. Si je connaissais, j'aurais déjà ouvert un salon en allemand, vous avez compris. Je voilà. Gute Kinder. C'est tout. Donc c'est dommage. Et moi, je dis à ce frère qui a dit je leur apprends l'anglais, le français. Maintenant, si tu leur apprends le français, il ne faut pas leur quelque chose qui a rapport avec la aqida, fausse aqida. Et si c'est un cours sur les divinités d'autrefois et Zeus et je ne sais pas qui et je ne sais pas qui les Grecs et tout ça, il faut éviter. Tout ce qui contredit la sharia, tu leur apprends comment conjuguer les verbes, comment analyser, comment le sujet, le complément et comme ça. Naam, tafadhal.
Non, mais certains vont peut-être penser pourquoi j'écris Kinder. C'est Kinder, c'est allemand à la base. Question suivante, cher. Certains prennent le verset suivant. Ceux qui ont cru, puis sont devenus mécréants, puis ont cru de nouveau, ensuite sont redevenus mécréants, et n'ont fait que croître en mécréance, Allah ne leur pardonnera pas, ni ne les guidera vers un chemin. Donc, surat 4, verset 137. Pour montrer qu'il n'y a pas de peine, pour celui qui apostasie, car le verset parle de celui qui sort, puis revient, puis sort de la religion, et à la fin il n'y a pas de peine, et que la peine pour celui qui apostasie, c'est seulement en cas de guerre. Est-ce qu'il y a divergence sur ce sujet? Tfadal cher. Barakallahu fikoum.
Une seconde, je ramène le verset, une seconde. Je ramène le verset. الله تعالى دي إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم زادوا كفرا لا يكون الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. Ceux qui ont cru puis sont devenus mécréants puis ont cru de nouveau ensuite sont redevenus mécréants et n'ont fait que croître en mécréance, Allah ne leur pardonnera pas ni les guidera vers un chemin droit. Je dis à cette personne qui a dit ce qu'elle vient de dire que il n'y a pas de châtiment pour l'apostasie. Ce verset, ceux qui ont cru, puis sont devenus mécréants, puis ont cru, etc., à la fin du verset, est descendu sur quelqu'un, sur le cœur de quelqu'un qui s'appelle Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa. Et ce Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi, qui connaît bien ce verset, a dit, celui qui change de religion, celui qui change sa religion, tuez-le. Donc, est-ce que toi, tu crois en ce qu'a dit Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou bien tu ne crois pas? Si tu dis qu'il est vraiment messager, et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam connaît ce verset, An-Nisa 137, il le connaît, il l'a lu, et c'est lui qui l'a appris, c'est lui qui nous a appris ce verset. Naam. Et lui, alayhi wa sallam, a dit, si quelqu'un change de religion, c'est-à-dire de l'islam vers une autre religion, tuez-le.
Donc comment tu fais maintenant? Ou bien tu dis, Ya Rasulallah, je t'ai entendu, j'ai écouté et j'applique. On doit le tuer. Ou bien je dis non. Pourquoi il dit comme ça et le verset a dit autre chose? Tu ne sais pas que c'est possible que ce verset ait ou la soit descendu sur le prophète avant qu'il n'y ait le hadith de l'apostasie et que Allah Ta'ala abroge des fois son Coran par d'autres versets. Et des fois il abroge le Coran par des hadiths. Tu sais pas ça? Naam. Tfadl. Ensuite, il y a autre chose très importante. Quelle est dans ce verset que la personne a cité, quelle est la preuve que le mécréant ici, quand Allah Ta'ala a dit, il a cru, il est devenu mécréant, il a cru, quelle est la preuve qu'il a annoncé sa mécréance? Quelle est la preuve que le juge a su qu'il était mécréant et l'a laissé? Yani, il ne lui a pas appliqué l'apostasie. Quelle est la preuve? Peut-être cette personne est devenue mécréante dans son cœur, c'est tout. Elle a dit ça et je ne crois plus. Ah, Allah Ta'ala n'existe pas, il n'y a pas de paradis, il n'y a pas d'enfer. Ensuite, il a recru. Ensuite, il est tout seul. Il est dans la cuisine, tout seul. Il n'y a personne qui l'a entendu. Ensuite, il a dit non. Ensuite, quelques temps après, il mécroit. Et comme ça, sans que le juge le sache. Donc, on n'applique pas sous l'apostasie. Personne n'a su cela, sauf Allah. Vous avez compris? Tfadlat.
Question suivante. Cher, ma question est sur le tawhid. Et le fait de faire des cours sur le tawhid. J'aimerais, Inch'Allah, motiver quelques sœurs à apprendre leur aqidah. En leur lisant un livre, est-ce que j'ai le droit, cher? Je ne suis pas une talibatou ilm et je n'ai pas de science. Mais le livre que j'ai envie de lire, j'ai écouté son explication et alhamdoulilah, ce sont des choses comprises. Est-ce que quand je lis ce livre, je peux rentrer en détail avec ses preuves et redire les paroles de talibatou ilm qui ont expliqué ce livre? Barakallahu fekoum, cher, qu'Allah vous garde. Et vous accorde une place auprès de lui. Fadal Cheikh.
Chauf, quand quelqu'un va lire un livre, il faudrait deux choses. La première, au moins deux choses. La première, qu'il soit sûr de la traduction du livre. Vous savez que des fois, le traducteur va changer quelques mots que yani, l'auteur n'a pas voulu dire. Donc on doit être sûr que c'est vraiment ce qu'a voulu dire l'auteur. Surtout si on a le livre aussi en arabe, pour comparer. Et la deuxième, de n'ajouter aucun mot. C'est-à-dire, je lis seulement ce qu'il a dit ici. Et plutôt la deuxième serait de ne répondre à aucune question. Aucune question. Naam. Qui a un rapport avec la aqida, je n'y réponds. Même si c'est dans ce que j'ai dit. Voilà, chère sœur, tu as dit maintenant, tu as lu que, par exemple, le tawhid le tawhid se divisait en trois groupes, seigneurie, divinité et nom et attribut. Est-ce que, nom et attribut, tu as bien dit ça, oui, nom et attribut. Est-ce que, par exemple, les actes, ça rentre aussi dans les attributs ou bien c'est quelque chose à part? Tu ne réponds pas. Naam, je t'ai dit, le théorie se divise en trois, j'ajoute aucun mot. Naam, je ne réponds à aucune question. Je me limite, je te lis seulement ce qu'il y a dans le livre. Naam, si c'est comme ça, c'est possible. Sinon, yani, l'aqida, c'est vraiment dangereux. Moi, je ne conseille à personne de donner des cours dans l'aqida. C'est vraiment dangereux. Pourquoi? Tu peux égarer les gens. Ensuite, tu dis, ah, qaddarallahu ma sha fa'al. Moi, j'avais compris comme ça. Ah, moi, j'ai compris comme ça. Je croyais que c'était ainsi. Subhanallah al-Azim. C'est maintenant que vous venez de m'apprendre que c'était pas comme ça. Mais pour moi, c'était clair que c'était comme ça. Subhanallah al-Azim. Donc, la aqidah, c'est très grave si on se trompe. Pourquoi? C'est pas comme dans le fiqh. Le fiqh, il s'est trompé.
on lui a dit c'est trois fois au lieu d'une seule fois, ou la deux fois au lieu d'une, et comme ça après on corrige. Mais Aqida, maintenant khlas, c'est rentré dans son cœur, il atteste dans son cœur. Naam. Tfadl.
Barakallahu fikoum, cher. Question suivante. Question d'une sœur qui dit: je voulais savoir si le fait de consulter des personnes qui prétendent avoir un don, comme par exemple guérir certaines maladies comme la migraine, le rhumatisme, l'eczéma, en exerçant certaines manipulations sur le corps et en prétendant que ce don vient d'Allah, est-ce que cela entre dans la catégorie que vous avez citée ce soir? Et est-ce que ce sont des charlatans ou bien existe-t-il vraiment des gens qui ont des dons, sachant que ces personnes, bien qu'elles soient musulmanes, ne sont pas spécialement connues pour leur piété ou autre? Barakallahu fikoum, cher.
En fait, naam, il faudrait avoir des bases, naam, pour ne pas se tromper et s'égarer. Les bases sont très simples, c'est quoi? Si Allah Ta'ala donne un don à quelqu'un, il lui donne pourquoi? Qu'à cette personne de plus, ou là en plus, que les autres, pour que Allah Ta'ala lui donne ce don de guérir et de poser sa main sur quelqu'un et guérir. Qu'est-ce qu'elle a comme don? Que cette personne soit vraiment pieuse. Mais là tu dis que ce sont des personnes simples, tout juste si elles font la prière. Non, des gens qui ne sont pas des gens de science ni s'intéressent à l'islam, et maintenant il a ce don, c'est pas possible, c'est du charlatanisme. C'est pas possible. Voilà, qui commencent eux-mêmes à se soigner de l'ignorance d'abord. Ensuite, qu'ils viennent... Chauffe, je vais vous raconter une chose. Hein. Des fois, je raconte des choses comme ça, ça rentre dans la tajriba, c'est-à-dire dans mon expérience. Quand j'avais peut-être 5 ou 6 ans, j'étais jeune, hein, 5 ou 6 ans, on m'a ramené quelqu'un à la maison, j'avais, comme on appelle un conjonctivite, la conjonctivite. Autrefois, peut-être, c'était pas connu, c'est quoi ça? Ça, c'est un quel médicament on donnait. Mon grand-père, Allah, moi, je sais pas qui l'a conseillé, il m'a ramené quelqu'un, hein, qui est venu me cracher sur le visage, cracher dans les yeux. Je sais pas ce qu'il a dit, il a lu, je sais pas quel verset, ou je ne sais pas, il m'a craché dans les yeux. Il m'a dit que quand elle crache dans l'œil de quelqu'un, il guérit. Bon, moi maintenant je sais pas si j'ai autrefois si j'ai guéri ou pas. Mais ce que je sais, c'est que maintenant quand j'ai grandi et j'ai commencé à prendre mon dîner à comprendre, cette personne qui m'a craché dans les yeux est toujours vivante. Et je trouve que c'est l'une des personnes les plus loin vraiment du dîner. Vraiment, vraiment quelqu'un, mieux encore, mieux, hein, c'est un attardé mental, cette personne. Attardé mental. Les gens rient d'elle et se moquent d'elle. Et celui-là, on l'a ramené comme quoi il avait un don. Zama, il me crachait dans mon œil. Al-Muhim. Ce que je veux dire, il y a des gens qui veulent qu'on leur fasse des éloges. Qu'on dise d'eux, ils ont des dons d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui a un don d'Allah ta'ala, il ne dit pas. Il a peur du aïn, et il hasad, et il se tait. Il crache au maximum la ni'ma qu'on lui a donnée. Le fait qu'il aime dire que j'ai un don d'Allah, que je sois Salam alaikum, donc j'ai été déconnecté, tfadl.
Allah fait comme cher. Tu m'entends pas, Fawzi? Alhamdulillah. Question suivante est la question d'un frère qui vous demande: cher, qu'en est-il de l'association faite par ignorance? Barakallahu fikoum.
quand quelqu'un est ignorant, il n'a rien. Il n'a pas de péché pour l'ignorance qu'il a faite. Mais il a un péché pour ne pas avoir fait des efforts pour demander yani, l'apprentissage. Vous avez compris? Il a yani, des péchés pour ne pas avoir ne pas avoir demandé, ne pas avoir fait la quête de la science. Talabul ilmi farida à la kulli muslim. C'est obligatoire. Est une obligation pour chaque musulman. Entre parenthèses, ça rentre et chaque musulmane. Naam. Tfadl.
Barakallahu fikoum, cheikh. Question suivante, question d'un frère. Cheikh, il y a une personne qui m'a dit que le mot tawhid n'est pas dans le Coran. Il ne se trouve pas non plus dans la sunna. Alors, cheikh, barakallahu fikoum, qu'Allah vous rajoute la science bénéfique, expliquez-moi, car cette personne m'a mis une choubouhat, m'a mis un doute. Qu'Allah vous préserve, cher.
Allah subhanahu wa ta'ala a cité dans le Coran plusieurs versets où il disait que c'était l'ouahid. L'ouahid. Naam. Maintenant, si le mot tawhid n'existe pas, le mot tawhid comme ça, le masdar, n'existe pas, donc on pose la question à cette personne. Donc, on ne va pas étudier le tawhid, c'est ce que veut dire la personne. Ou bien, elle veut dire que celui qui va étudier le tawhid, yani, est égaré, et dans le faux chemin. Que veut dire cette personne? Il faut qu'elle nous dise qu'est-ce qu'il parle le fait qu'il n'y ait pas le mot tawhid dans le Coran et dans la Sunna. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? C'est tout.
Elle veut dire en fait, cher, que le mot tawhid n'est pas cité dans le Coran et il n'est pas cité, que le prophète A.S. n'a pas cité ce mot.
Et après, justement, je lui dis après, qu'est-ce que ça veut dire? S'il n'y a pas dans le Coran, il n'a pas été cité. Il n'a pas été cité dans la sunna. Est-ce que maintenant, yani, c'est interdit d'en parler? Il y a plusieurs termes qui n'existent ni dans le Coran, sunna, ni même chez les premiers prédécesseurs, comme les sahaba et les tabi'in. Et pourtant, qui sont employés dans tous les livres de al-sunna al-jama'a. Prenons l'exemple de ba'in. Ba'in. Attends, je vais l'écrire en arabe. Regardez cette phrase, vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Inna Allah ba'inun min khalqih. Allah Ta'ala est séparé de sa créature. Ba'in. Naam, c'est à peu près ce sens en français. Est-ce que quelqu'un des sahaba, est-ce qu'on a dit je suis ba'in? Est-ce que le prophète a dit je suis ba'in? Est-ce que quelqu'un des sahaba a dit je suis ba'in? Est-ce que leurs enfants disent « je suis ba'in » Et pourtant, si vous allez lire « Tahawiyya », vous allez lire « Al-Wasitiyya », vous allez lire « Safariniyya », vous allez lire les livres de « Mujmu'a Fatwa » de Cheikh l'Islam, vous allez lire les livres de Cheikh Ibn Uthaymeen, de Cheikh Fawzan, de Suhaimi, qui vous voulez, des savants. À chaque fois, ils disent « Al-Aqida »« Allahu Ta'ala » Ba'inun min khalqih. Pourtant, il n'y a pas ce mot, ba'in. Pourquoi ils l'ont. D'où ils l'ont inventé? Ils l'ont inventé parce que les gens de la bid'a ont inventé aussi d'autres termes. Si, il y a une secte qui s'appelle Hululiya Audu Billah, il Itihadiya, à leur tête, Ibn Arabi, naam, et Ibn Farid, et Tidimsani, et Kuyouni, et d'autres, là, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit tout cet univers, c'est Allah. Ça s'appelle l'unicité de l'Allah. Alors, pour les contrer et réfuter ce qu'ils disent, elles se sont inventé un mot.
On dit non. Il y a Allah Ta'ala le créateur. Et il y a la création. Allah Ta'ala est ba'in min khalqi. Il est séparé. Il n'y a pas création, créature collée. Non. Allah Ta'ala ba'in. Ba'in. Détaché. Et pourtant, ce mot ne se trouve pas dans le Coran ni, ni chez, chez les premiers salafs. Voilà. Les gens de la bid'a, quand ils inventent une bid'a, les gens de la sunna sont obligés d'employer un mot qui n'existe pas, mais spécialement pour contrer cette bid'a. Non. Maintenant, les gens des péchés font le shirk. Font le shirk. Toi, pour contrer le shirk, tu vas dire, il y a quelque chose qui s'appelle tawhid. Non. Toi, tu propages du shirk. Moi, je vais te combattre en propageant quelque chose qui s'appelle quoi? Il faut que ça ait un nom. Ça s'appelle le tawhid, contre le shirk. Vous avez compris? Même si le mot n'existe ni dans le Coran, ni dans... Mais c'est pas important que le mot existe. Mais la chose, le tawhid lui-même, il existe dans le Coran, il n'existe pas. Allah Ta'ala nous a enjoint de lui faire le tawhid ou n'a pas enjoint? C'est-à-dire de combattre le shirk. Toute personne qui combat le shirk fait le tawhid. Toute personne qui combat le tawhid fait le shirk. Vous avez compris? Ce qui m'intéresse, c'est pas le mot. Est-ce qu'il y a tawhid ou il n'y a pas? Mais ce qui m'intéresse, est-ce qu'il y a ce que comprend le tawhid ou il n'y a pas dans le Coran? Vous avez compris? Donc je ne vois pas, je conseille cette personne, si vous la connaissez, de lui dire de se taire et de ne pas proposer une chose pareille, parce qu'elle risque, cette personne risque d'égarer des gens, et ensuite sera responsable yawm al-qiyama devant Allah subhanahu wa ta'ala, qui va lui dire, Allah ta'ala va lui dire, écoute-toi, le jeune qui a tout juste 18 ans, 20 ans, 22 ans, Naam, est-ce que, en disant une chose pareille, tu voulais ajouter quelque chose que les savants yani, n'ont pas su? Ou alors tu veux yani, peut-être la réputation en disant, regardez-moi, j'ai trouvé quelque chose, il n'y a pas de tawhid dans le Coran et dans la sunna, et les savants Naam, se sont trompés donc quand ils parlent de tawhid. Non, c'est très grave ce que dit la personne. Si la personne veut dire seulement, je veux montrer dans la science que ce mot n'existe pas dans le Coran, dans la sunna. On lui dit, malish, d'accord. C'est-à-dire que donc, les savants se sont trompés quand ils disent, il y a tawhid en islam. Et il y a... La oh, c'est grave, c'est vraiment grave. Tfadla.
Barakallahu fikoum, cheikh. Comme nous l'indique le frère Mousseline, on est arrivé à la fin des questions, inchallah. Je vous en pose une dernière. On finira sur celle-ci. Question d'une sœur qui dit « Ma question est en rapport avec le cours dernier. En fait, on a vu que s'incliner devant un autre qu'Allah est de l'apostasie. Mais dans notre culture, il est respectueux de s'incliner devant les parents ou les personnes âgées. Précisément, on place nos deux mains sur le front, puis on penche la tête en signe d'humilité, avec vraiment cette intention. Donc c'est par respect. Est-ce considéré dans le même cas, cher ? Barakallahu fikoum.
Est-ce que tu as compris, toi, Nani, cette position? Je ne l'ai pas comprise. Est-ce que tu peux m'expliquer c'est quoi cette position?
Naam, cher, c'est la personne, elle met les deux mains sur le front de l'autre personne, elle se baisse un petit peu, elle se prosterne légèrement. Un peu comme on voit, je ne sais pas si vous avez déjà vu les Chinois ou les Japonais, qui font beaucoup cette chose-là, les Indiens aussi, ils se baissent légèrement. Ça ressemble pratiquement à ce que font les judokas avant de faire leur combat. Sauf qu'ils mettent, ils rajoutent les mains en plus de ça.
Moi, j'ai pas compris. Je croyais que D'ailleurs, je voudrais des renseignements. Comme a dit Allah ici, les francs à qui? Moi, je croyais que la personne posait ses mains sur la personne, sur le front de la personne, et lui embrasse, par exemple, le front. Par exemple, son père est assis, je rentre dans la chambre, mon père est assis, je pose mes deux mains sur mon front, et je lui embrasse, par exemple, son front. Est-ce que c'est ça? Ou bien mon front à moi. Je pose mes mains sur mon front à moi et je m'incline. Comme font les Japonais, etc.
J'ai posé la question, cher. Mais je me demande, est-ce que ça change vraiment quelque chose dans le hukm, cher? Parce que je pense que le fait de se prosterner, c'est ce qui est le plus douloureux ici, non?
Cheikh l'a aidé qu'on ne parle pas de prosternation, pas de s'incliner. Mon père est assis, et moi je suis debout, pour lui embrasser son front. Je suis obligé de m'incliner, non? Mais je m'incline, c'est pas pour m'incliner. Je m'incline pour lui embrasser son front. Si ça c'est interdit. Alors, si j'ai mon cartable, Nam, qui est par terre, donc je n'ai pas le droit de m'incliner pour le prendre. On va dire que tu t'es incliné. C'est pas ça qui est haram. C'est haram si je m'incline dans le sens de l'adoration. C'est pas pour prendre quelque chose ou là pour me gratter. J'ai mon orteil qui me fait mal, je veux le gratter. Donc je m'incline là. Est-ce que j'ai fait du haram? Tfadlal.
Enfin, je voulais dire s'incliner, bien sûr. Je ne voulais pas dire prosterner. Et donc, la personne a dit qu'elle se met les mains sur son propre front à elle. Et elle s'incline, donc, c'est leur façon à eux de dire bonjour dans leur culture.
Non, ça, c'est haram. Ça, c'est haram, bi-idhnai ta'ala. J'ai une fatwa ici avec moi. Si vous voulez, je la lise, je le fais. De Waqid Sheikh Fawzan. Je pense que c'est lui, Wallahu alam. Pour celui qui s'incline en faisant le karaté. Le karaté, il a dit que quand je vais dans la salle, en quoi on m'impose de faire comme ça, une petite inclination. Comment on fait maintenant? Comment a dit celui qui a posé la question? Il a dit juste une salutation pour commencer le combat. Les savants ont répondu, ils ont dit non, tu fais pas ça. Si vous voulez que je lise, je lis. D'ailleurs, on va ajouter, Inch'Allah, à la 10 ou 15 minutes dans les questions-réponses. Tfadlal.
Donc, j'ai la question suivante, cher. Inch'Allah. Question d'une sœur qui dit, Haïkoumullah, cher. J'aimerais savoir, cher. J'ai appris il y a quelques jours que ma grand-mère, qu'Allah lui fasse miséricorde, connaissait une femme avant sa mort et que celle-ci était une femme qui lui tirait les cartes. Et cela était fait afin de lui donner, selon elle, des nouvelles de l'invisible. Ne sachant pas si elle s'est repentie de cet acte, sera-t-elle parmi ceux qui perçoivent des choses après leur mort, telles que la zakat, le jeûne, l'istighfar, ou la parole de notre prophète, alayhi salam, nous a transmis à ce sujet, ne concerne que les parents de l'enfant. La question est, si je fais des demandes de pardon pour elle, est-ce que mes actes seront comptés pour elle ou ça ne s'arrête qu'aux parents avec leurs propres enfants? Barakallahu fikoum, cher.
Je n'ai pas compris la question. Quand elle a dit que Yanni elle est morte et maintenant elle a cité le mot zakat, faire la zakat, ça j'ai pas compris. Si c'est possible de relire la question, Inch'Allah ta'ala. Entre autres, avant cela, écoutez, en arabe, وقد سئل علماء اللجنة الدائمة الإفتاء. Et les savants du comité permanent leur ont posé cette question. إن خالطنا في نادي من نوادي الكاراتي بأمريكا. On s'est joint à Nadi. Comment on dit Nadi? Bon, j'ai oublié un groupe comme ça, pour faire le karaté aux États-Unis. وقال المدرب l'entraîneur a dit إنه يجب أن تنحني. Tu dois t'incliner عندما ينحني لك هو. Tu dois t'incliner
quand yani, l'entraîneur s'incline. Tu dois t'incliner quand l'entraîneur s'incline. L'âme, on s'est adhéré à un club, c'est ça, Nadi, ça. Donc il lui a dit, tu dois t'incliner quand l'entraîneur s'incline. Hein? On n'a pas accepté. On lui a dit qu'on n'accepte pas, c'est pas accepté dans notre religion. Il a accepté. Mais il a dit, قال على أن ننحني فقط الرأس. قال d'accord j'accepte. Vous ne courbez pas. Hein? Vous ne courbez pas vos dos. Mais faites inclinaison ou inclination seulement avec votre tête. Il a dit car il faut faire quelque chose comme ça sinon c'est pas accepté. Le comité a répondu. لا يجوز الانحناء. C'est pas permis de s'incliner. تحية للمسلم pour saluer un musulman ou bien un kafir ou un kafir la bil juz al a'la min badan quand s'incline c'est interdit de s'incliner quand s'incline avec la partie supérieure du corps c'est-à-dire le buste et la tête ou la bil ras et non et c'est aussi interdit avec la tête لأن الانحناء car le fait de s'incliner تحية عبادة c'est une salutation religieuse. Et l'adoration ne peut être qu'Allah Azza wa Jal. Cheikh Abdullah, Cheikh Abdelaziz, Cheikh Abdel Razak, Afifi, Cheikh Abdullah ibn Hudayan, Cheikh Abdullah ibn Qaoud. Fatwa, Lajna Daima 171. Ici on dit, et le fait de s'incliner, prendre la main du père ou de la mère, ou une personne de la famille, et lui baiser la main. J'ai pas compris. S'incliner, prendre la main du père ou de la mère, ou une personne de la famille, et lui embrasser la main. Je mets en huissière pour être. Non. J'ai dit. Quand des fois on ne peut faire une chose qu'en s'inclinant et on n'a pas dans le cœur que c'est ibada, nam. Si on ne fait ça, on ne peut pas. Par exemple, on lève la main à quelqu'un, nam. On la lève, on ne peut pas la lever. La bouche, si c'est notre père ou là. Mais on s'incline un peu pour l'embrasser. C'est comme si quelqu'un est assis et je m'incline un peu pour l'embrasser. Si c'est comme ça, il n'y a pas, inshallah ta'ala, de mal. Surtout si dans le cœur, je n'ai pas dans le cœur que je fais yani, quelque chose de ibada. Tafadhal.
Donc je vous repose la question, cher, vous n'y avez pas répondu. À savoir que sa grand-mère, donc, qui est morte, se faisait tirer les cartes par une autre femme avant de mourir. C'était selon elle pour lui donner des nouvelles de l'invisible. Ne sachant pas si elle se repentit de cet acte, sera-t-elle parmi ceux qui perçoivent des choses après leur mort si on leur fait des actes, par exemple zakat, jeûne, la umra, etc. Donc, est-ce que, dans un premier temps, est-ce que, cher, le fait qu'elle soit morte sur ça, est-ce qu'on doit lui faire ce type d'acte? Si elle a laissé sa zakat, est-ce qu'on doit en fait lui payer, si elle a laissé le zakat qu'elle n'a pas payé, elle? Donc, tous ces types d'actes, est-ce qu'on peut lui faire sachant qu'elle est morte dans cet état? Ça, c'est sa première question. Et la deuxième question, elle veut savoir si c'est permis à toute personne de faire des actes pour un mort ou cela concerne uniquement l'enfant avec ses parents ou le contraire.
J'ai pas compris la dernière. Est-ce que ça concerne les enfants? Elle dit, je l'ai pas comprise.
C'est par rapport au hadith du prophète, il dit que les actes sont arrêtés sont lors de la mort, sauf trois, et parmi elles, donc, un enfant pieux qui fait des invocations. Et elle veut savoir, donc, est-ce que les invocations sont limitées à l'enfant, pour son père mort, ou toute personne peut faire des actions pour un mort, pour une personne morte. Tafadhal, cher.
En fait, le hadith qui a dit que les trois choses yani, qui arrivent après la mort, entre autres, l'enfant qui nous fait des doigts. Ça, ne veut pas dire que si une autre personne qui n'est pas son enfant lui fait des doigts, n'arrive pas. Non, il ne veut pas dire comme ça. Le hadith veut te dire que ces trois choses, ça t'appartient. Ça restera, même quand tu es dans la tombe, ça t'arrivera. Pourquoi ? Parce que ça t'appartient. Ton enfant qui t'est enfant vient de toi. Tu as été la cause pour qu'il vienne dans ce monde. Mais il n'a pas dit que si ton voisin te fait des doigts, que ça ne va pas t'arriver. Non. Allah Ta'ala dit dans le Coran que même les anges nous faisaient des doigts. Pourtant les anges, on n'a aucun rapport avec eux. Si ce n'est que yani, ce sont eux qui nous surveillent, etc. etc. Al-Muhim. Donc une personne par les sorciers, etc. Ensuite cette personne est morte. Nous, on lui fait des doigts, etc. dans le sens que Allah Ta'ala lui pardonne. Parce que si cette personne était musulmane, maintenant on ne sait pas. Peut-être qu'elle a fait la Touba, on ne sait pas. Et nous, on prend toujours le musulman sur le bon côté. On dit, Inch'Allah Ta'ala, peut-être qu'il a dû faire la Touba, surtout la personne quand elle vieillit, etc. Elle commence en général à revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala et demander pardon. Et maintenant, si nous on ne demande pas pardon à quelqu'un qui a fait des péchés, des grands péchés, à qui on va demander que Allah Ta'ala pardonne? On va demander à Allah Ta'ala qu'il pardonne à Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu et à Omar ibn Khattab radiallahu ta'ala anhu. Cela, Allah Ta'ala, le prophète Hassan a dit qu'il faisait déjà partie des gens du paradis. Ils font partie des 10 qui ont été désignés à aller au paradis. Certes, je fais sur eux le taradi et le tarahum. Mais, yani le tarahum, celui qu'on a vraiment besoin, c'est celui qui a fait les péchés et les grands péchés. Vous avez compris? نعم تفضل
question suivante cher yeah, cher lorsque j'étais petit j'étais au bled. J'étais au bled sur la terrasse qui faisait à peu près 2 mètres de hauteur de la maison. Il pleuvait beaucoup ce jour-là. Puis ma tante m'a crié et je me suis retrouvé en train de courir sur la route. Puis on m'a attrapé et on m'a dit que je suis tombé de la terrasse. Et effectivement, mon côté droit était balafré avec des petits cailloux dans la peau. Ensuite, la sœur de mon grand-père est venu nous dire que c'était des chayatines qui sont venus m'endormir. Étant petit, j'y croyais avec peur de ces chayatines. Allah Musta'an. Puis, alhamdulillah, Allah Ta'ala m'a fait connaître l'importance du tawhid et le danger du shirk. Ai-je commis du polythéisme dans mon enfance en croyant que ces genoux m'avaient aidé? Allah Musta'an. Dois-je faire taouba? Sachant que ça date de plus de 15 ans. Et une dernière chose qui se passe depuis un mois. C'est une question. J'ai refusé tout à l'heure une deuxième question d'une personne. Donc on va se contenter d'une seule question, Inch'Allah. Car il y a beaucoup de questions ce soir. Tfadal, cher.
Je dis à cette personne, premièrement, puisqu'elle reconnaît avoir fait ça dans l'enfance. Je lui dis que toute personne qui a fait n'importe quoi, même du politisme, de l'associatisme, de la voyance, de la zina, n'importe quoi, avant la puberté, que c'est une grande ni'ma, que ça, ce n'est pas un péché. Aucun péché ne s'inscrit sur une personne jusqu'à ce qu'elle devienne pubère, ou alhamdoulillah. C'est l'une des grandes ni'ma qu'Allah Ta'ala nous a donné. Une des grandes ni'ma. Comme a dit le prophète Islam, que la plume est levée sur 3 personnes. Celui qui dort jusqu'à ce qu'il réveille, le fou jusqu'à ce qu'il devienne raisonnable, et l'enfant jusqu'à ce qu'il devienne pubère. Tout enfant qui n'est pas pubère, même si, starfirullah, je dis starfirullah, il lève sa tête vers le ciel et insulte Allah. Ça ne s'écrit pas contre lui. Tant que tu n'es pas pubère, tu es un enfant. Tu peux dire n'importe quoi, insulter n'importe qui. Vous avez compris? C'est pour ça un enfant. Vous faites confiance à un enfant.
On fait confiance à nos enfants, il est là en train de prendre Coran, allez, répète le verset, et le coursier, je sais, il sort de la porte, il ferme la porte, peut-être il insulte ta religion. C'est un enfant. Il est là devant toi, et maman, viens, on prie, machallah, mon fils, il prie, toi, tu l'envoies chez ses cousins, il te dit, ça fait une semaine qu'il n'a pas prié. Subhanallah, c'est un enfant. Al-Muhim. Par contre, tout enfant qui n'est pas pubère, et fait des choses, des obéissances, Allah Ta'ala lui inscrit des obéissances. Regardez cette ni'ma. Tu insultes Allah, il ne te donne pas le péché. Et tu fais une salatullah, il t'inscrit l'obéissance. Chauffe la ni'ma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand j'ai dit tout à l'heure que tu insultes Allah et ne te donne pas un péché, mais à condition que son père et sa mère ne l'ont pas entendu, hein. Maintenant, s'ils l'ont entendu et ne l'ont pas frappé, ne l'ont pas blâmé, ne l'ont pas puni, ne l'ont pas ceci, eux, ils auront le péché à sa place. Eux, ils auront le péché à sa place pour ne pas l'avoir, quoi, l'avoir grandi et l'avoir corrigé. Et l'avoir corrigé. Et donc, je dis à cette personne que, puisqu'elle dit ça, que c'était pendant l'enfance, que ça ne compte pas du tout. Et maintenant, si c'était après l'enfance, après la puberté, elle a fait ça, et je ne sais pas, elle a fait du politisme, je ne sais pas quoi, qu'elle fasse le repentir tant qu'elle est vivante. Toute personne qui est toujours vivante, lève ses mains et dit, « Ah, bilhamdoulilah, pour cette ni'ma, que je suis toujours vivant. » Car, tant que la personne est vivante, et il n'y a pas eu deux choses, quelles sont les deux choses? Le soleil s'est levé du couchant, ni je suis dans les affres de la mort, je suis dans les dernières minutes de ma vie. Yani, mon âme est en train de sortir de mon corps. Tant que ces deux choses ne sont pas arrivées, je suis vivant, c'est une grande ni'ma. Je peux faire repentir de n'importe quel péché que j'ai fait. Même si j'ai mis la croix, je l'ai accroché et j'ai dit je suis devenu chrétien. Tant que je suis maintenant, alhamdoulilah, vivant, je suis pas mort. Le soleil ne s'est pas couché s'est pas levé du couchant. Je ne suis pas dans ma dernière minute. L'âme n'est pas dans mon gosier. Alhamdoulilah, je dis, Allah, pardonnez-moi. Ya Allah, j'étais jahil. Ya Allah, j'étais ignorant. Ya Allah, pardonnez-moi, je ne savais pas. Pardonne si je suis sincère. Alhamdoulilah, c'est une ni'ma, grande ni'ma, que Allah Ta'ala nous a donnée. C'est pour ça que le paradis, combien qu'il a de portes? Fawzi, la question est à toi. Fawzi, la question est à toi. Le paradis, combien qu'il a de portes? Laissez Fawzi répondre tout seul. Fawzi, il va me dire, j'ai pas entendu, j'étais absent. Attends, je suis en train de préparer le pain parce que c'est un boulanger. Alhamdulillah. Il a dit, Allah, Muslim, ma question est à toi. Le paradis, combien qu'il a de portes? Il va me dire, je suis occupé avec les questions-réponses, je peux pas répondre. Combien qu'il a de portes? Bon, il a dit, j'entends pas, j'ai mal à l'oreille. Tamla. Ah, oui, porte. Alhamdulillah. Tamla. L'enfer, combien qu'il y a de portes? L'enfer, combien qu'il y a de portes? 7. Alhamdulillah. Donc, regardez. Le paradis a 8 portes et l'enfer seulement 7 portes. Pour te prouver que la miséricorde d'Allah est beaucoup plus grande que son châtiment. Si sa colère est plus grande, il aurait mis 100 portes pour l'enfer. Et seulement une porte pour le paradis. Mais non, c'est le contraire. Allah Ta'ala, naam, sa miséricorde a gagné, il a dit dans hadith, sa colère, a vaincu sa colère. Naam. C'est pour ça que le paradis a 8 portes, et l'enfer seulement 7 portes. Alhamdulillah. Donc, Inch'Allah Ta'ala, on va arrêter ici. On a dépassé largement le temps qu'on devait donner. On se rencontre, Inch'Allah Ta'ala, samedi. Bi'idhnillah Azza wa Jal. Subhanakallahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.